Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue pour la 19e de Quoique, l'émission qui fait ce qu'elle peut. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 octobre 2004, jour de la Sainte Pélagie, ça ne s'invente pas. Femme vivant dans le luxe et le stupre, elle se repentit et servit Dieu jusqu'à sa mort, le 8e jour d'octobre, vers l'an du Seigneur 2090. Un petit peu d'histoire.
Elle est morte.
Sainte Pélagie.
Ah. Ouais, mais c'est dommage. Hein.
Bon. Une non, charmante. Et moi je confirme, ma Sainte Poil, elle est devant moi. Bon. Et elle en a plein les bras.
Ça part.
Et aujourd'hui, nous collerons parfaitement à l'actualité, puisqu'en ce début d'automne, le thème de l'émission sera l'automne.
Ça tombe bien.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors, quelle que soit la saison, avide de connaissances, il essaie toujours quelque chose de nouveau. Il vient nous le raconter. Il vient nous raconter comment il a commencé ses nouvelles expériences. Cré.
Exactement. Je vais commencer une nouvelle expérience encore une fois de plus.
Eh ben, j'espère bien.
Je vais commencer à détester l'automne, mais pas tant que ça.
D'accord. Ben, on attend ça avec impatience. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, elle passe toujours de longs moments dans les salles obscures des cinémas. Quoi de plus naturel, puisque dans les cinémas, elle se trouve à l'abri des intempéries, comme tu viens de le dire, Flo.
Oui.
Oui, aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de choses que tu as vues dans ces salles obscures.
Oui, fin du film qui m'a le plus marqué pour l'automne et peut-être même pour l'année.
D'accord, et il s'appelle
Infernal Affairs.
D'accord.
Affaires infernales.
D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais.
Voilà.
Voilà. Merci de ta traduction.
Non, mais ton verre, il avait un peu de mal quand je lui ai dit hier soir au téléphone, il ne comprenait pas ce que je voulais dire.
Comme aujourd'hui, tu étais en train de manger du saucisson à l'ail en même temps,
des
c'est
capres,
pas étonnant.
Non, mais ça, c'est la ligne qui était mauvaise, ça grésillait, et ton anglais est infernal aussi.
Merci.
Quand l'automne arrive, elle se dit chouette, il va pas faire beau, je vais pouvoir regarder la télé et je vais pouvoir le raconter sur Quoique, Béa.
Tout à fait, j'aime bien l'automne.
Et donc là, tu vas nous parler de ce que tu as vu
De la rentrée télé, notamment un programme qui fait beaucoup parler, le Pensionnat de Chavagne.
D'accord.
Ça colle bien avec la rentrée.
Voilà.
Et puis comme ça, au moins, je vais savoir de quoi ce que c'est ce Pensionnat de Chavagne dont j'entends parler.
Bah voilà.
Voilà. Ah, j'aime bien Quoique, comme ça, je sais ce qui se passe à la télé.
Bah, c'est bien. Il sévit dans les monoprix, dans les bars, dans les cinémas, dans les librairies, dans une fanfare, sur internet. Il va bientôt sévir sur les planches, puisque monsieur commence à faire du théâtre. Enfin, il commence pas, ça fait déjà un moment. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on enregistre ce soir vendredi au lieu de jeudi, parce qu'il avait un cours de théâtre hier soir, Numa.
Bonjour.
Bonjour, et tu vas pas nous parler de théâtre ?
Non.
Non, tu vas nous parler de littérature, BD.
Oui.
J'ai vu que tu avais beaucoup de livres là.
Oui, mais là je te faisais un petit peu lambiner parce que comme tu sais pas de quoi je vais parler.
Ça bah non, tu me l'as pas dit.
Non, puis hier soir, je savais pas alors.
Non seulement tu nous fais décaler l'émission, tu nous dis pas de quoi tu vas parler. Enfin bon.
Ouais, non, mais j'ai actuellement.
Tu cumules.
Oui, j'ai lu beaucoup de pièces de théâtre, donc je voulais pas trop en parler, mais j'ai aussi lu Le voleur de temps de Tony Hillerman et j'ai découvert deux BD, deux bandes dessinées dont je voulais vous parler. Donc c'est Hong Kong Love Story et le minuscule mousquetaire, le tome 2 de Johannes Farr, et c'est formidable.
D'accord, bah très bien.
C'est bon, hein.
Bah oui, ça a l'air bien, mais ça s'arrête pas là. Tu veux nous en parler vraiment
Bah oui.
D'accord.
Ben là je parlais de quoi j'allais parler.
D'accord.
Les gens n'en parlent pas vraiment, en fait.
D'accord, bah je pense que tout le monde a compris.
Non,
vous avez compris,
vous quoi.
Oui, ils écoutent même pas.
En fait, il annonce ça.
Oui, ben
voilà, il va nous parler d'un bouquin, de BD, et hop.
Et hop, zoup, emballé.
Eh ben hop, zoup, et ben on va attaquer aussi sec. Et ben tata, Cré à toi.
Tata, Cré à moi. Bon, alors. J'ai même pas encore parlé, j'ai déjà mort de rien.
Je suis désolée, j'ai compris tata cré.
Tonton cré. Ah, tata cré. Je préfère tonton que tata, à la limite, effectivement, parce que bon. Tata, 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 tata. Enfin bon. Alors, donc, l'automne, qu'est-ce que ça évoque pour moi, l'automne? Eh ben, surtout, ça évoque la fin de l'été, donc déjà, c'est pas terrible. Parce que moi, l'été, j'aimais bien, justement, l'été.
Tu l'as vu cette année?
Donc,
il y en a eu un.
Ah bah moi, j'ai eu du bol. Moi, je suis parti en vacances au bon moment. J'ai eu du beau soleil. J'étais dans le Lot. C'est bien le Lot. Hein.
Nous aussi, voilà, on a eu du beau soleil au mois de juin en
bon,
vacances.
Il faisait chaud et tout. Je suis rentré, il faisait frais pour aller bosser. Et au mois d'août, c'était parfait. Enfin bon, bref. L'automne, c'est quand même la fin de l'été. On est bien d'accord. Donc c'est pas glop. C'est la préparation de la nature à l'hiver, c'est aussi les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation, c'est quoi encore maintenant avec la taxe d'habitation, ils nous ont inventé la taxe
la
sur la télé,
télé,
voilà qu'il va falloir qu'en plus que moi j'écrive un papier pour leur expliquer que j'ai pas la télé, machin chose, ils vont pas me croire, ça va. Moi j'ai, déjà j'ai mal à la tête rien qu'y penser.
Non,
télé.
Mais non, regarde, ils vont t'envoyer,
c'est une solution.
Bah oui, voilà l'avantage, ils vont t'envoyer une
comme
personne.
Comme ça j'aurais pas besoin
d'attendre
quoi que pour savoir ce qui se passe.
Non, mais ils vont t'envoyer quelqu'un, une personne un jour pour vérifier que t'as pas la télé, tu vas pouvoir incendier cette personne,
et
plus personne ne vérifiera jamais si t'as la télé
et
ou
le
pas.
Le pire, c'est qu'ils vont démonter mon ordinateur pour voir s'il y a pas un tonneur télé, parce que maintenant quand vous achetez un ordinateur, c'est pour ceux qui ont pas la télé, faites attention parce que il y a des ordinateurs qui sont vendus avec des tonneurs télé. Donc vous pouvez, vous devez payer.
Le premier qui démonte mon portable, ça m'arrange. Je me fais rembourser en disant qu'il me l'a cassé et ça va nous arranger très fort.
Oui, mais donc, c'est, je voulais juste te dire que c'est assez normal que les feuilles d'impôt se ramassent à l'appel. C'est la saison, voilà.
Joli.
De rien.
Mais, enfin joli, joli, joli. Les impôts, moi je trouve pas ça joli, joli. Et d'ailleurs, c'est pas tout ce qui nous tombe dessus comme tuiles en automne, puisque c'est aussi la fête des morts, c'est la pluie, c'est le changement d'heure. On aime tous le changement d'heure.
Bah oui, dans ce sens-là,
celui-là,
oui,
celui-là
c'est
il est bien. Ouais.
On dormira une heure de plus.
Ouais.
Bah oui, dans ce sens-là,
ouais,
moi j'aime bien.
Ouais. Du coup, dans ce sens-là, le soir, il fait nuit plus tôt.
Tu veux pas dire qu'avec l'automne, t'as commencé à être jamais content?
Si aussi, mais bon, bref, me casse pas ma chronique, merde, j'étais de mauvaise humeur, donc je continue sur ma mauvaise humeur. Donc après le changement d'heure, le ciel gris, la vie la nuit, parce que finalement l'automne, on commence donc à voir les jours raccourcir, à devenir comme une peau de chagrin, c'est-à-dire quand finalement on voit plus le jour de la journée.
Bah comme ça on voit pas que c'est gris.
On part au boulot, il fait nuit,
c'est
pendant qu'on est dans notre
raison,
bureau, bah il fait jour, c'est super, on en profite pas, et quand on sort, ça y est, il fait nuit. On
oui, mais Béa a raison, de toute façon, voilà. En plus, comme à Paris on voit pas les étoiles, t'es tranquille, quoi, si bon, tu veux, il peut y avoir des nuages et tout.
J'ai droit à 10 minutes, alors si vous me coupez tout le temps, je vais jamais y arriver. Là, j'ai pas encore fini mon premier paragraphe.
Tu peux tutoyer Flo.
Oui. Très bien. Donc voilà, donc j'étais en train de dire qu'il faisait nuit tout le temps, que à nouveau les axes des grandes villes étaient les grands axes des grandes villes étaient complètement embouteillés, les bouchons et patati et patata. Ça, les transports en commun, c'est l'horreur. Enfin, et on recommence comme chaque année la désagréable expérience des merdes de chiens cachées sous les feuilles mortes. Enfin bon, bref.
Qui habitait dans un quartier où il n'y a pas d'arbres. Hein.
Vous imaginez donc l'automne comment j'aime l'automne. Hein. Moi, j'ai trouvé cette situation proprement scandaleuse. Du coup.
J'aurais dit salement vu les merdes.
T'as fait une association.
Non, non, vous allez voir. Parce qu'au moment où j'ai écrit ma chronique, c'était encore l'été. C'était la toute fin de l'été, c'était le 9 septembre. Et il faisait encore très beau. On a eu un début septembre exceptionnel.
Comme
c'était
souvent,
un, comme on dit, un peu un été indien.
Une belle arrière-saison.
D'ailleurs, voilà, une belle arrière-saison. Et j'ai décidé que cette année, eh ben, l'automne ne devait pas arriver avec tout son lot de mauvaises nouvelles et que cette belle arrière-saison, comme tu dis, Béa, devait durer. Donc, du coup, j'ai écrit une lettre au président de la République.
Ah, bah, ça, c'est
une
bonne
idée. Vrai.
Si.
Pour qu'il change le temps.
Pour lui demander de faire cesser immédiatement ce scandale annuel. Et cette cause de marasme social. Et je vais vous lire le courrier que je lui ai adressé.
Tu lui as vraiment adressé?
Oui.
Attends, j'ai pas eu la réponse. Moi, je le connais bien, j'appelle pour voir s'il l'a vraiment eu.
Mais non, il est en Asie, là. Donc,
j'ai été très correct. Je n'ai fait aucune fanfaronnade dans le courrier, parce que j'espérais vraiment avoir une réponse. Malheureusement, je ne l'ai pas encore eu. Alors, monsieur le président de la République, je vous écris cette lettre. Oui, bon, je sais, vous en avez déjà eu une qui commençait comme ça. Enfin bon. Dans l'espoir que vous puissiez intervenir sur une situation qui me paraît proprement scandaleuse. Chaque année, vos concitoyens ont pour habitude de partir en vacances pendant les mois de juillet et d'août. Enfin, pour la plupart. Ce repos, comme vous le savez, est complètement mérité et leur permet une remise en forme tant physique que morale. Vous n'êtes également pas sans savoir que ces activités estivales grèvent lourdement le budget des ménages français. Or, chaque année, à peine rentrés de vacances, prêts à affronter une nouvelle année de labeur, les Français se voient placés face à un véritable parcours du combattant qui viendra anéantir tous les bienfaits de leur repos estival. En premier lieu, vient la rentrée qui commence le travail de sape entre stress et dépenses astronomiques. Très vite, suivent les impôts sur le revenu qui viennent parfois alourdir la note plus que prévue. Dans la même veine, nous devons également subir la taxe d'habitation et la taxe foncière que tout le monde paie, parfois à travers un loyer. Voilà pour l'aspect financier. Ce chapitre financier s'inscrit dans un décor qui n'est pas franchement propice aux mauvaises nouvelles. Au moment où les Français prennent ces coups de massue sur leur budget, déjà écorné par les vacances, les jours raccourcissent et bientôt les travailleurs n'apercevront plus le ciel qu'à travers les fenêtres de leur lieu de travail. Le changement d'heure ne change pas grand-chose et perturbe plutôt les organismes.
Non.
La température baisse, les parapluies sont de retour. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que vos compatriotes gardent un moral d'acier pour affronter les durs mois d'hiver ? Bien sûr, ils le font, mais, comme je vous l'ai montré, handicapés par un automne redoutable. Je partage évidemment le respect accordé aux anciens et à notre histoire que nous célébrons à travers la fête des morts et à travers l'armistice du 11 novembre. Ces deux événements, fortement solennels, sont malheureusement les seuls répits des Français pendant cette période. On ne peut pas dire qu'ils soient vraiment de nature à regonfler le moral des troupes. En considération de tous ces aspects, Monsieur le Président de la République, je vous demande de bien vouloir faire pour nous le maximum. Par exemple, en conservant ce magnifique été indien jusqu'à Noël, car c'est de ça dont nous avons besoin, des rayons de soleil. Il faut redonner le sourire et l'espoir aux Français en cette période, et quand bien même les efforts et les sacrifices sont nécessaires, ne pourrait-on envisager de mieux répartir la charge qui pèse sur les ménages ? Je suis sûr que vous saurez prêter une oreille attentive à mon discours, un peu léger certes, mais traitant tout de même d'un problème de fond réel. Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président de la République, l'assurance de mon plus profond respect. Voilà. Donc j'avais adressé cette lettre le 10 septembre à l'Élysée. Je n'ai pas reçu de réponse à ce jour. Voilà.
C'est bizarre.
Eh ben, moi, j'ai déjà une solution pour toi. Une. La mensualisation des impôts.
Alors moi, je suis mensualisé, mais par contre, tu peux... Ah ouais, c'est vrai que sur les impôts sur le revenu,
on va pouvoir aussi. En plus maintenant, justement, avec la redevance télé aussi, on va pouvoir mensualiser ça aussi. Donc, il pourrait te répondre ça déjà. Et après, le changement d'heure, non, ça ne bouleverse pas.
On verra bien ce qu'il répond. En fait, je voulais absolument avoir la réponse et malheureusement, je ne l'ai pas eu. C'est pour ça que je m'y étais pris tôt, parce que ça aurait du coup continué ma chronique.
Ça aurait été bien, ouais, de savoir si c'est écrire.
Du coup, je me suis creusé la tête pour trouver un petit peu un pendant à mon pendant anti-automnal, essayer de trouver des éléments. Donc, je me suis un peu creusé la tête. Je me suis souvenu que quand même, à l'automne, il y avait quand même des événements heureux. Je me suis souvenu notamment de mon enfance. Les joies des retrouvailles avec les copains à l'école.
Je suis né en
automne. L'excitation de la rentrée.
Bah oui.
Puis il n'y a pas de tout.
Et le pinard.
On va y venir, me casse pas tout.
Oublié,
Je me suis souvenu aussi que l'automne, c'est le retour des bons petits plats. Ça y est, il commence à faire froid, on a droit au cassoulet.
Et oui, peut en été
cassoulet,
aussi,
pot-au-feu, choucroute, raclette, fondue. Autant de plats qu'on s'est bien interdit pendant l'été. Bon, moi personnellement, j'ai arrêté de grossir. Donc forcément, j'en profite que très peu. Mais bon, quand même. Dans la même veine, c'est aussi le retour des champignons, des châtaignes.
Il y a Numa qui a une proposition à faire.
Ça, c'est la plage, t'attraper des champignons à la plage et ils poussent en automne.
C'est vrai. Oui. C'est aussi les pommes, l'époque des pommes, des poires, et puis surtout, c'est l'époque du
raisin.
C'est l'époque du raisin. Les vendanges, formidable, les vendanges. Donc finalement, c'est une époque qui peut être aussi tout à fait formidable.
Oui, c'est ce week-end à Montmartre.
Mais c'est vachement chiant à ramasser hein, quand même.
Bah nous on s'en fout, on le ramasse pas, on le boit.
On le boit, oui.
Oui, mais il faut attendre un peu.
Oui, il faut attendre un peu, mais c'est pas grave parce que justement ils mettent en bouteille le vin de l'année dernière. Et puis il y a un vin qu'il faut pas attendre beaucoup. Et très bientôt en novembre, on va connaître le
Beaujolais
nouveau. Voilà,
tous,
moi je suis pas
tous
fan.
Tous les autres primeurs qui sont les meilleurs.
Les bourrus, les primeurs en général, on les boit cette période.
Un goût de fruits rouges.
Voilà, et même si on n'est pas fan du Beaujolais nouveau, de toute façon, c'est bien l'occasion de faire la fête.
C'est la fête, oui, c'est surtout pour ça.
C'est le seul intérêt. Hein.
Voilà.
Oui.
Et puis, l'automne, c'est aussi un petit peu, après tant de vie dehors, exubération sur les plages et compagnie, machin, c'est un retour à un peu plus d'intimité qui nous va très bien.
Dans certains cas, il faut soigner les coups de soleil.
Un peu entre nous. On retrouve ses petites habitudes au bistrot, au club de théâtre, au club de gym, au judo, pour certains.
Au club pour les vieux.
On retrouve ces vieux pulls bien confortables. Ouais. On se blottit l'un contre l'autre sous la couette. Et puis la rentrée aussi, c'est un peu comme janvier. On a certaines bonnes résolutions. Moi, cette année, ma bonne résolution, c'est que je tiendrai pour une fois mes résolutions de janvier.
Ah. Bravo.
Et c'est déjà pas mal. Pour ceux qui aiment le cinéma, c'est la fin de la programmation d'été. Et en général, c'est pas un mal.
Ah oui, c'est vrai, je suis le... vachement embêté parce que j'ai vu arriver la nouvelle programmation pour la semaine et elle est énorme.
Pour ceux qui aiment la télévision, c'est la rentrée. Des nouvelles émissions toutes neuves qui ressemblent absolument pas aux émissions de l'année
dernière. C'est ce que je ne ressemble à rien.
Et puis bon, bah bref, l'automne apporte de toute façon son lot de nouveautés, de charme et d'emmerdes. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça.
Et puis on a tous les mois des emmerdes.
Et en épilogue, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent automne avec plein d'impôts, plein de Beaujolais et plein de cassoulets. Voilà.
Merci. Oui, et une bonne choucroute pour les teutones.
Si elles veulent.
Mais un excellent automne.
Bravo.
De rien.
Mais si, si, on insiste. Donc voilà, c'était ton épilogue. Tu fais plus de conclusions, toi, maintenant, tu fais des épilogues.
Bah, une conclusion, ce serait plutôt du genre, tu synthétises un peu tout ce que tu as pu dire dans ta chronique. Moi, j'avais pas du tout envie, j'ai juste envie de souhaiter
un
bon automne.
Oui, automne, c'est sympa quand même.
Je questionne.
Le joyeux d'un anniversaire.
Je cherche à comprendre les méandres de sa pensée.
Non, non.
Non,
bah, j'espère.
On va s'arrêter là.
Cherche pas à commencer l'année prochaine. Voilà.
Donc eh ben, on peut l'applaudir bien fort. En plus, il a fait 12 minutes. Alors, bravo. Et bien maintenant, nous allons passer à Flo.
Je fais plus ma chronique, parce que Numa, il a dessiné un dessin obscène sur ma chronique.
Mais c'est pas grave, tu nous parleras du dessin.
Bon, d'accord alors.
Donc tu vas nous parler d'un film avec un titre anglais.
Oui, qui s'appelle Infernal Affairs. Mais d'un autre côté, il vaut mieux que le titre soit anglais, parce que vu que c'est un polar hongkongais, on serait un peu dans la merde si on devait le lire en chinois.
Bah, surtout toi, oui, parce que nous, on va pas le lire, mais bah vas-y.
Voilà, alors.
Nous t'écoutons.
Alors voilà, donc il s'agit d'un polar hongkongais. Numa pose cette BD tout de suite.
Vas-y, te laisse pas distraire.
Je ne me laisse pas distraire. Numa, tu poses
si,
la BD immédiatement.
Si, tu te laisses distraire.
Mais moi, donc, je
sors de ton
sujet.
Alors, il s'agit donc d'un polar hongkongais qui, à mon avis, est à la hauteur de Usual Suspect. Vous avez tous vu Usual Suspect?
Oui. Oui, avec plaisir.
Vous avez apprécié Usual Suspect.
Moi,
alors, vous adorez Infernal Affairs. Pour une fois, je vais vous parler d'un film qui va vous plaire.
Et on peut le voir ?
Oui, on peut le voir. Enfin, sur Paris, il faut se manier parce qu'il n'est plus que dans une salle. Hein, parce que c'était un film de début d'automne, voire fin d'été.
D'accord.
Voilà. Et alors, oui.
Dis-le tout de suite dans quelle salle, parce que si des fois, les gens qui sont en train d'écouter, ils vont y aller tout de suite pour pas perdre de temps.
Il faudrait chercher le Pariscope. Mais je sais pas, en plus, je suis très perturbée, mais je l'ai vu dans la salle à côté de chez moi, il est pas marqué sur le Pariscope. Mais il faut dire que la salle à côté de chez moi fait un peu n'importe quoi, donc je ne citerai pas. Enfin bon, quoi.
Tu veux pas parler de l'entrepôt ?
Oui, mais on ne cite pas. Donc, quand je disais.
Il y a déjà des gens qui appellent.
Quand je disais que ce film ressemble à The Usual Suspect, c'est.
Elle n'a même pas éteint son téléphone.
C'est parce que c'est un film, quand même, que quand on l'a vu, en fait, on a envie de le voir et de le revoir et de le revoir, parce que même si on connaît déjà la fin, ce qui est assez rare pour un policier, on a envie d'y retourner pour découvrir autre chose. Et là, donc, c'est l'histoire de destins qui se croisent. Leurs histoires, les histoires personnelles de deux types se mêlent et les choses sont beaucoup moins simples qu'il n'y paraît, quoi. Donc, je vais essayer de vous mettre, de vous expliquer ça grosso. Donc, en fait, au début du film, toute la programmatique est mise en place de manière assez habituelle, quoi. On utilise le noir et blanc pour faire un retour dans le passé. Enfin, le départ, le passé pour mieux vous montrer la suite.
Non, c'est le noir et blanc, c'est un problème de budget.
Non. Là, c'est pour vraiment couper noir et blanc couleur, à mon avis,
d'accord.
Si tu veux. Non.
Toujours.
C'est la petite méthode bien connue. Remarque, si on passait couleur noir et blanc, ça te paraît très bizarre aussi. Hein.
C'est un problème de budget.
C'est possible, là. Donc, ça se passe, tout commence dans un temple bouddhiste. Et là, il y a une espèce de type assez énorme. Qui est en train de parler. En fait, il s'avère que c'est un chef de triade. Alors ça, on comprend assez rapidement parce qu'il a vraiment la tronche du méchant quand même. Et il passe en revue ses nouvelles recrues. Et alors, ces nouvelles recrues ont toutes des casiers judiciaires vierges. Alors, quand on voit ces jeunes gens, ben, la première chose qui vient à l'idée, c'est « Merde, les pauvres, ils ont dû répondre à une simple et banale petite annonce. » Et voilà, à mon avis, ils sont pas dans la merde. Et effectivement, en fait, à partir du moment où ils ont mis les pieds dans le temple, leur destin est scellé parce qu'on leur propose de partir. Mais vu le personnage avec qui ils scellent le pacte, on se doute bien que le premier qui sort n'aura pas le temps de dire deux choses. Donc voilà, à ce moment-là, en fait, les images se télescopent. L'histoire des jeunes qui sont là, et on arrive directement dans un centre d'entraînement policier. Et là, on tombe sur un élève. On vous présente un élève surdoué. Il est évoqué une histoire de flic infiltré. Là, le type en question, le fameux élève surdoué dont on a parlé à propos de flic infiltré, est renvoyé. Alors, se pose la question, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Serait-il un des mecs de la mafia? Parce que, bien sûr, les autres, avant, vous n'avez pas eu le temps de retenir un peu qui est qui, etc. Pouf! Et on voit le mec se faire renvoyer. Donc, on commence à se demander un peu ce qui se passe, un peu dans cette affaire, surtout où on va vous emmener. Et puis, la place de la personne qui s'est fait renvoyer est offerte aussitôt à un volontaire. Et c'est la fin du préambule, boum, on passe à la couleur, enfin la couleur, d'abord le générique et puis après le film.
La couleur, c'est pour le présent.
Oui, la couleur, oui, merci.
Donc alors c'est le noir et blanc, le générique et la couleur pour le présent. Donc.
C'est original.
Non, c'est assez classique.
Le
noir et blanc est utilisé pour montrer le passé.
Oui, la couleur. Enfin, la première fois que ça a été fait, c'était original.
Oui. Parce qu'il dure combien de temps le passage en noir et blanc?
Il est quand même assez long, ouais.
Ouais, mais justement, c'est original d'avoir le générique au bout d'un quart d'heure.
C'est comme dans Le Bon, la Brute et le Truand, sauf que c'est pas en noir et blanc.
Ça, c'était, oui.
Ouais, c'était
Monica, mais ça, c'est.
Mais le générique est tard dans Le Bon, la Brute et le Truand.
C'est aussi un réalisateur italien. Et justement, ça tombe bien.
Nous allons boire du Chianti.
Nous allons boire du Chianti.
Super.
Donc que je vais ramener David d'Italie.
Je suis allé en Italie pendant mes vacances, en fin d'été, début d'automne.
D'accord. Et moi, au mois de septembre, je suis allé à Hong Kong dans une salle, alors j'aimerais parler de mon film.
Mais vas-y, mais là, on avait fait stop.
C'est rigolo, quoi. Un réalisateur italien qui tourne en Espagne des films censés se passer
aux États-Unis.
Oui, ben moi, je te parle d'un réalisateur.
C'est original, ouais.
Moi, je te parle de réalisateur dont j'ai pas pu vérifier l'origine parce que on nous a coupé Internet grâce à France Télécom qui s'est fait dessus.
Mais t'aurais dû nous demander, on se serait fait un plaisir de refuser. De t'aider.
Merci. Et que, au nom des Hongkongais, en fait, il n'est pas facile de savoir s'il s'agit de Chinois ou d'Américains venus donner un coup de main. Ouais. Non, bah ouais, parce qu'ils ont vraiment gardé des noms très anglo-chinois, leur affaire.
Oh, c'est original aussi.
Oh, c'est très original. Non, mais c'est très surprenant comme film. Et alors, bon, donc, je vous dis, on se retrouve, on revient à la couleur, on fait un bond dans le temps, et là, on se retrouve sur un toit. Et sur le toit, on voit un type, il y a un type, et un autre homme vient vers lui. Il lui transmet un dossier et lui donne une montre. Et alors, le mec qu'on voit sur le toit, bien sûr, on le reconnaît pas parce qu'il s'est passé un petit paquet d'années. Donc, il a vieilli par rapport aux gens qu'on a vus en noir et blanc avant. La personne qui lui donne le dossier, pareil, a vieilli. Donc, on est un peu perdu. Enfin, moi, personnellement, si vous arrivez à retrouver exactement les visages, vous êtes très fort.
Mais surtout si c'est pas les mêmes acteurs.
Oui, voilà, c'est pas les mêmes acteurs. Mais non, on a pas entendu. Ils échangent de trois propos. Enfin bref, il est question d'une mission secrète, enfin et d'une dernière mission. Et on annonce aussi que la montre, c'est pas un gadget à la James Bond, mais c'est un vrai cadeau. Et il est aussi question de retour à la surface pour la personne, la personne qui reçoit la montre. On lui promet que ça y est, il va pouvoir réintégrer le côté de la loi et sortir de la clandestinité. Et donc voilà, on se retrouve à l'arrivée avec deux personnes. Alors, ça paraît très flou dans mon intro, mais je vous assure que quand on voit le film, c'est très flou. Et donc, j'ai fait exprès de vous le laisser un minimum flou pour que vous puissiez avoir...
Je te rassure, c'est flou.
Non, mais je t'assure, pendant tout le début du film, vous êtes complètement... Enfin, on est tous complètement baladés à droite et à gauche.
C'est marrant, mais c'est comme dans You Joue le Suspect, je sais pas si vous l'avez vu.
Ouais, t'es tout là.
T'as suivi?
Hein?
Donc en fait,
c'est comme dans You Joue le Suspect.
dans les 20 premières des minutes du film, en fait, on est complètement largué, mais vraiment largué de chez largué. Et même quand les choses commencent à devenir plus claires, on n'est pas vraiment sûr en fait de ce qu'on a
vu.
Et on a encore plus de doutes sur ce qu'on a vu avant. Alors déjà, ce qu'on a vu avant, c'était pas facile. Mais alors plus ça va, plus on se dit mais non, c'est pas vrai. Non, mais je fantasme. Je voudrais revoir le début. Alors c'est là que tu regrettes de pas être devant la télé, et pouvoir revenir en arrière sur ton magnétoscope et te dire je veux voir. Ouais. Alors du coup, c'est bien, tu vas retourner au cinéma voir le film. Et donc, en fait,
voilà, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, ils font des films tordus au possible pour se retourner voir.
Mais oui, justement, attends, et non, comment tu fais des
Mais il faut se dépêcher, il passe plus que dans une salle.
Et ouais, hein.
Comme bon, il faut le voir quatre fois, vous avez intérêt à vous dépêcher.
À l'arrivée, en fait, il s'agit de deux personnes infiltrées. Alors, il y en a un qui est infiltré chez les flics et l'autre qui est infiltré dans une triade. Et une dizaine d'années environ plus tard, il se trouve que le mec infiltré chez les flics va travailler sur la triade du mec qui est infiltré chez, enfin, le mec des flics qui est infiltré dans la triade va travaller sur la triade qui est infiltrée. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire.
Ah, hein, faut aller le voir, quoi.
Les deux histoires se mêlent.
Tu l'avais pas dit.
Non, mais ce que je viens de réaliser, je viens de retrouver enfin ce que je connaissais le titre. Oui, si j'en ai entendu parler, je vois lequel c'est. Ouais.
Voilà. Et
en fait, là, je crois qu'elle vient de donner la clé du scénario.
Elle vient de donner, elle vient de donner le pitch. Parce que je t'ai donné la clé, mais ça ne donne rien. Parce que si tu veux, après
non,
ça,
là, tu viens enfin de donner le pitch.
La clé, mais ça n'ouvre pas la porte.
Après, en fait, si tu veux, c'est la base. Mais bon, déjà, l'un, l'autre, même toi, t'es pas vraiment sûr exactement de qui est quoi.
Non, moi, non.
En voyant le film, si tu veux, tu penses savoir, et puis tout d'un coup tu as des doutes parce que après tu rentres dans une espèce de guerre des nerfs, en fait tu rentres vraiment dans les personnages et même les personnages eux-mêmes ne savent plus
voilà,
qui
c'est
sont.
Le gendarme et le voleur et personne ne sait qui c'est le gendarme
sait
qui est le voleur,
et le gendarme qui est le voleur, même le gendarme ne sait même plus,
et eux ils ne savent plus non plus.
Voilà,
non.
Le gendarme qui
super
est
intéressant.
Le gendarme qui est chez les voleurs
il
ne sait même plus
critiques,
Dieu, c'est son grand combat, c'est sortez-moi de l'ombre et réhabilitez-moi gendarme. Et le voleur, si tu veux, il a une vie gendarme dans la vie vraie, et il est voleur ailleurs, et donc par rapport à son ami, par rapport à tout, par rapport à lui-même, c'est très inconfortable, quoi.
Par rapport à sa vie, il mène des enquêtes normales, mais en même temps,
en plus,
il donne des informations, mais en même temps, il résout, donc il met en prison des gens, mais en même temps, c'est super compliqué à vivre.
Ouais,
c'est Denis Brasco à l'envers.
Ben non, puis en plus, si tu veux, il se trouve que c'est quand même le plus doué, c'est le meilleur.
Et c'est le meilleur flic. Quoi.
C'est le meilleur flic. Ils ont jamais eu un flic aussi bon, donc tu t'imagines.
Bah forcément, puisqu'il comprend tout de suite.
Non, parce qu'au-delà de ça,
mouillé,
si tu veux,
quoi,
il a un esprit d'analyse. En fait, si tu veux, c'est deux grands cerveaux qui se retrouvent inversés, si tu veux. Ouais. Le mec qui se retrouve dans la triade est infiltré parce qu'il a un super esprit d'analyse, et le type en face, pareil. Donc ça rend les choses complètement dingues, quoi. Voilà. Et puis en plus, je vous disais, ouais, ce qui est marrant, c'est au-delà de l'histoire encore, c'est qu'on est à Hong Kong. Et alors, ce qui est fou, c'est que maintenant qu'Hong Kong est vraiment retourné au chinois, il n'y a plus que des faciès de chinois, mais ils continuent de parler un chinois-anglais ou un anglais-chinois, comme vous voulez, quoi. Et c'est bourré d'anglais au milieu du chinois. Alors on lit les sous-titres. Puis d'un coup, mais je suis con, mais pourquoi j'ai des sous-titres? En fait, ils parlent anglais. Et puis t'arrêtes de lire les sous-titres, mais non, il parle chinois, donc ça en rajoute une petite couche assez
rigolote.
Est-ce que
toi tu parles anglais couramment?
Oui, je parle anglais couramment, monsieur.
Oui, c'est vrai que t'es aux États-Unis, mais tu parles comme si tout le monde faisait la même réflexion.
Non, parce
que je serais persuadé
que
moi, entre l'anglais parlé par un chinois et le chinois.
Parce qu'il le parlait naturellement, et si tu veux, en plus, ils utilisent des termes simples, donc c'est des mots que tu peux pas
rater. Je continuerai à lire les sous-titres. En français,
même, on se rend compte quand même, même si on parle pas bien anglais, qu'effectivement, tout à coup, mais on comprend un peu.
Oui, voilà, tu te dis, mais merde,
peux
pas les rater.
Attends, moi je l'ai vu et je parle anglais comme.
Bah, si vous le dites.
Comme une vache espagnole.
Comme un turc parle breton.
Oula.
Alors là.
Ça peut être marrant, ça.
C'est pas courant.
Donc en fait, il faut vraiment que vous vous dépêchiez pour le voir parce que d'abord, il est plus dans beaucoup de salles. Et puis, il faut que vous voyez aussi pour vous préparer parce que on a vu The Infernal Affairs 1 qui a été tourné en 2002 a priori à Hong Kong, enfin qui est sorti en 2002 à Hong Kong et qui est arrivé relativement tard chez nous. Et en fait, il y a le Infernal Affairs 2 qui est déjà sorti depuis un moment chez eux.
Tu veux dire Two, One and Two?
Ouais, One and Two. Et Number Two is coming now.
Je préfère Infernal 1 et 2 et c'est Infernal.
Parce que c'est pareil, du français en plein milieu de l'anglais, on comprend rien.
Infernal 2 va arriver en France, je peux pas vous dire exactement quand parce que j'ai pas vu les dates, mais enfin il est fait. Et c'est avant l'histoire qu'on voit là dans le 1. En fait, le 2 est
histoire
avant
de
le 1.
Bien nous empêtrer.
C'est un peu comme la guerre des étoiles.
Mais voilà. C'est pas les mêmes.
Sauf qu'ils avaient déjà prévu le coup et qu'ils avaient déjà, on a vu épisode 4, 5, 6 quand on a vu le premier.
Mais c'est pas les mêmes acteurs aussi.
Oui, monsieur. L'Empire contre-attaque, ça fait déjà épisode 5.
Ah, bah on parle pas de la même chose. Excusez-moi d'être resté dans la
chronique. Ah non, dans Infernal Affairs 2, j'ai vérifié et c'est pas les mêmes acteurs.
T'es passé par-dessus ton épaule.
Donc c'est 1, 2, mais il y aura pas de avant et il y aura pas de après, si. Non,
parce qu'il n'y a pas de avant, parce que si je peux pas, enfin bon, vous verrez le 1 et vous comprendrez qu'il peut pas y avoir d'après, et vous verrez le 2, je sais pas comment ils émerdent pour faire un avant. Voilà.
Bon, on se débarrasse toujours quand on veut faire du fric.
T'as pas parlé des acteurs par rapport au 1 et au 2, alors? Parce que est-ce que
c'est pas les mêmes? Si je t'ai dit que c'était pas les mêmes, j'ai regardé à l'époque où on avait encore internet et IMDb, il m'a dit que c'était pas les mêmes.
Bon, d'accord.
Voilà. Et ce sont donc des acteurs hongkongais?
Ouais,
très bon. C'est très bon.
Chinois ou hongkongais, je sais pas. Enfin, si, je crois, ils doivent être hongkongais parce qu'ils ont des noms, à consonance anglo-saxonne avec un nom chinois. Enfin, le nom de famille est chinois et le prénom. Et genre Tony et trucs comme ça, quoi, en fait.
Et c'est, ouais,
Tony
Leung.
Leung ou Leung.
Moi j'ai un collègue, il s'appelle André Wong. Et c'est un Chinois qui est né en France. Et d'ailleurs, je le salue. Il écoute pas, mais je le salue quand même.
André,
bonjour.
Je sais pas si Tony Leung, ça vous dit quelque chose? C'est le mec qui jouait dans Hero.
Parce il joue que quel il est... rôle dans Hero?
Celui qui a la barbe, le plus vieux des guerriers.
Le premier, celui qui...
Celui qui est avec la nana.
D'accord.
Celui qui est avec la fille.
Et vraiment un très très bon acteur.
Ouais, il est extraordinaire.
Oui, il est bien.
D'accord, et alors, c'était ta conclusion?
Ouais, c'était ma conclusion, allez-y. Bah, je suis en train de retrouver la page, donc si vous voulez, je peux vous donner les noms, mais ça va pas vous avancer des masses.
Ça, je le crains.
Oui, bah oui, surtout avec une prononciation du tonnerre.
On va attendre, rien que pour la prononciation.
Ah, oui. Alors, attends, alors, pout, alors, donc, Tony Leung.
Moi, je dis qu'elle a quand même dégoté un film qui me donne envie d'aller le voir.
Andy Leung.
Ouais, c'est sûr.
Non, sans blague, j'ai gagné. Anthony Wong et Eric Tsang.
Non, mais les noms des acteurs, laisse tomber.
C'est ce que je te dis, c'est tout un mélange de chinois et d'anglais, en fait.
C'est Hong Kong.
C'est Hong Kong, c'est un autre monde.
Donc alors ce film est très bien, allez le voir, et si vous n'avez pas le temps d'aller le voir, vous louez-le.
Voilà, il sortira en DVD bientôt.
Tu cherches,
bientôt,
et tu le diras bientôt.
Oui, il me semble qu'attendez, avant de vous annoncer une connerie, c'est ça, il est au studio Galande à première vue selon
Paris. Oui, mais peut-être des gens qui habitent en province qui nous écoutent.
Et bien ils viennent au studio Galande à Paris pour le regarder.
Ils cherchent,
il y a déjà suffisamment de monde à Paris.
Mais non, mais avec un peu de chance, avec le décalage.
Les embouteillages et tout.
Non, mais avec un peu de chance, avec le décalage des salles, eux arriveront peut-être mieux à le voir que nous.
Aussi,
avec un petit peu de chance, il n'est plus à Paris.
Oui, dans les salles d'arrêt de province, il y a des excellentes programmations.
Il y avait qu'une seule bobine.
Il y a des très bonnes programmations. Moi, j'ai passé.
Mais oui, il avait de bonnes critiques.
Il est excellent.
Ouais. Celui-là, il va tourner.
Mais j'en ai déjà entendu parler. Parce que quand tu as cité le sujet, là.
Il est sorti cette année. Il est sorti cette année en France.
C'est mon père
voilà.
Il a la valeur. Enfin, pour moi, il est aussi bon que Usual Suspect. Quoi. Tu peux aller le voir 15 fois et tu t'emmerderas pas, même si tu connais la fin.
D'accord. Eh bien, on peut l'applaudir.
Ouais, parce que pour une fois que je donne envie d'aller voir un film, merde.
Bravo. Et bien après le grand écran, nous allons passer au petit écran.
Au petit.
Putain, ça dégage hein, comme transition, ça. Hein.
Ah,
hein,
ça fait presque péjoratif. Moi, je serais toi, Béa, je me fâcherais. Hein.
Voilà. Non, c'est pas péjoratif. Voilà. Donc, Béatrice,
Bah oui, donc moi, contrairement à Cray, moi l'automne j'aime bien. C'est même ma saison préférée, ses couleurs, ses parfums, son climat justement. Moi j'aime bien la, j'aime bien la pluie.
Quelqu'un qui s'habille tout en noir, c'est normal.
Oui.
Hein.
Peut-être que ça va avec, ouais, parce que c'est la saison de la renaissance, du recommencement. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, qui pour eux c'est le printemps, qui entre parenthèses, moi je déteste comme saison. Et donc bah, l'automne j'aime bien son mois de septembre parce que effectivement c'est l'époque de la rentrée. Alors quand j'étais petite, j'adorais la rentrée des classes. Nouvelle tête, nouveau prof, nouvelle fringue aussi. C'est une fille. Mais maintenant que je ne vais plus à l'école, bah, je me fais ma petite rentrée à moi, c'est-à-dire bah, la rentrée télé. Puisque c'est surtout la télé qui fait sa rentrée. Donc avec ses nouveaux programmes, ses nouvelles têtes, mais aussi les anciennes. Alors j'ai un petit tour rapide d'horizon des chaînes. France 2 nous a une fois de plus sucré la diffusion de Friends. Hein, c'est pas grave, ils vont revenir. Par contre, moi, je retrouve Urgence, c'est tout à fait personnel. C'est les nouveaux épisodes, en plus. Donc, j'aime bien. Je retrouve aussi, avec beaucoup de plaisir, Laurent Ruquier et toute sa bande, donc tous les soirs, avec quelques nouveautés dans son émission, histoire de casser la routine. Donc, si on a tout essayé. Et TF1, mise pour la quatrième année sur l'indétrônable Starac, pour faire de l'audience. Canal+, essaye toujours de s'en sortir avec un nouvel Access Prime Time. Et cette fois-ci, en faisant appel à une valeur sûre, Deniso. Je n'ai pas encore regardé son émission, mais apparemment, c'est pas mal. Et par contre, c'est M6 qui crée la surprise en faisant une audience rarement atteinte par la petite chaîne qui monte plus trop haut, vraiment. Donc, en effet, la 6, depuis plusieurs années, essuie plus d'échecs d'audience que de succès. Mais là, le jeudi 9 septembre, elle arrive à rassembler 6,2 millions de téléspectateurs, ce qui est assez énorme. Soit, parce que c'est l'une d'ailleurs des 15 meilleurs scores d'audience que la chaîne a fait depuis sa création. Il y a à peu près 15 ans, 6, non moins que ça.
Bravo!
Si, à peu près 15 ans. Ouais.
On approche la vingtaine d'années.
Ouais, donc c'est le 15e meilleur score.
Le premier, c'est le Loft. Je captais pas d'où j'étais.
Et donc, ce programme, c'est évidemment un programme de télé-réalité. Donc vous en avez certainement entendu parler. Parce que ça fait toujours causer autour de la machine
lequel,
à café.
Lequel.
C'est donc le pensionnat de Chavagne.
Et même dans les journaux, ils en parlent. Hein, moi.
Mais carrément, ça. Toutes les semaines, il y a des articles.
Dans Le Parisien, je suivais les aventures.
Voilà, ça fait beaucoup parler.
Il y a un truc qui me turlupinait d'ailleurs. Ce Chavagne en question, il est où?
Oh, je sais plus. C'est plutôt dans le sud de la France. J'ai peur de dire des bêtises. Il me semble que c'était pas loin de.
C'est à côté
de
d'un village.
De Chavagne, c'est celui qui a fait Coucou, c'est nous.
Ouais, c'est à côté d'un. C'est
le Chavagne
de Saint-Christophe.
Chavagne, et c'est un vrai pensionnat.
Non, non, parce que
tu m'as rappelé ma blague que je préparais.
T'avais qu'à te dépêcher.
Non, parce que ça aurait pu être drôle.
Non, là, tout le monde parle un peu. Vas-y.
Mais non, je disais que Chavagne, c'était j'avais un collège que je connaissais qui s'appelait comme ça, Angoulême.
Mais oui, voilà, il y en avait à Loudun aussi. À Loudun, c'était un truc privé qui faisait.
Mais je crois pas que ce soit dans cette région-là. Enfin... Par contre, c'est un vrai pensionnat. C'est une école franco-britannique, je crois, en vrai.
Ah non, alors c'est pas le mien.
Donc, je vais vous expliquer rapidement le principe. C'est 24 ados, 13-15 ans, donc des 4e, 3e apparemment,
faut les mater.
Qui ont passé le mois de juillet de cette année dans un pensionnat pour vivre et suivre des cours à la mode des années 50, afin de, disent-ils, de passer le certificat d'études.
Avec des coupes règles sur la tête.
Donc, ils sont habillés et coiffés comme à l'époque, donc blouse grise, cheveux courts pour les garçons, nattes pour les filles, et donc ils suivent les cours de l'époque, avec notamment les batteries de cours habituelles, mais des cours de jardinage et de cuisine dispensés par des vrais profs d'aujourd'hui, mais inspirés par leurs anciens, grâce à des manuels de l'époque.
Je suis vachement déçue parce qu'ils auraient pu tous les raser pour des causes de poux et tout, ça aurait été vachement plus drôle.
Non, non, mais là, ils les ont vraiment coupé court derrière les oreilles.
Est-ce que c'est mixte? Normalement, tu comprends vite pourquoi.
Mais par contre, là, c'était mixte pour les besoins du jeu. Alors que c'est vrai que ce n'était pas mixte en vrai. Ah, mais forcément, il y a quand même des adaptations, forcément.
Oui, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, avec un grand mur, ça aurait été encore plus drôle.
Ils étaient chacun, forcément, dans leur dortoir, mais bon, ils suivaient les cours en commun, forcément. Donc, ils suivent les règles de l'époque. C'est-à-dire lever, entre autres, lever à 7h du matin, rangement de la chambre avec lit au carré, s'il vous plaît, et contrôle de tout ça par le
surge. Combien de lits en portefeuille?
Non, ils, non, mais non, ils connaissent
les
pas.
Minables,
ils connaissent pas. Mais ils ont peu d'imagination.
C'est vraiment des nuls. Hein, c'est
et
nuls.
Le
ils ont
plus
jamais
drôle,
vécu en communauté, ils peuvent pas connaître.
Le plus drôle et le plus difficile apparemment pour eux, c'était tous les matins, ingestion d'une cuillerée à café d'huile de foie de morue, hein, pour bien digérer, pour bien commencer la matinée.
Ça
et le tout, donc, sous l'autorité du surveillant général, le surgé, Monsieur Navarron. Alors donc, avant que de vous donner la parole...
Roger Hanin.
Non, Navarron.
Ah bon.
Non mais Navarron, déjà, c'est un gros méchant. Déjà, rien que le nom, déjà, il est pas gentil, lui.
Alors justement, avant de vous donner la parole, parce que voilà, hein, je suis sûr que ça va vous faire réagir, même si vous n'avez pas vu l'émission, je vais d'abord vous donner mon sentiment sur le programme.
Pignouf.
Donc d'abord, avant de le voir...
Pignouf le surgé.
Avant de le voir à l'écran... quand j'avais lu les avant que ça passe sur le papier, moi l'idée me paraissait relativement intéressante, et ce pour deux raisons. À l'heure actuelle, on se pose beaucoup de questions sur le niveau de nos écoliers. Ça fait beaucoup débat. Beaucoup pensent que le niveau a baissé, que ce qu'on leur demande est plus facile,
c'était
et qu'ils ne savent plus écrire, plus compter, enfin bref.
C'était
et dans un même temps, on retrouve aussi chez beaucoup une certaine nostalgie de l'autorité, c'est pareil, on en parle beaucoup, nostalgie de l'autorité d'avant, surtout chez les parents, chez certains parents qui préfèrent envoyer leurs gamins dans le privé parce que soi-disant les profs du public ne savent pas tenir leurs élèves, d'où beaucoup d'échecs scolaires.
Ils savent pas tenir leurs élèves, tu m'étonnes, tu dis un truc à un élève, t'as le parent qui vient de coller une claque.
Voilà.
Moi je tiens moins.
Je suis tout à fait d'accord. Bref, donc je me suis dit, allons-y, on va regarder et on va voir ce que ça donne de tester les élèves de maintenant face à une discipline stricte et de les confronter aux exigences scolaires d'avant, puisque ils vont passer le certif et je les ai vus, hein, c'est vraiment bien les manuels d'avant. Et ben j'ai trouvé le résultat assez intéressant, assez significatif sur certaines choses. Je m'explique. Évidemment, je ne suis pas naïve. Je sais bien que ce n'est pas une expérience scientifique complètement valable. Ça reste un programme télé, fait pour faire de l'audience, avec donc toutes les arnaques que ça comporte, surtout un programme de télé-réalité. Je sais bien que notamment, les élèves ne sont pas complètement naturels, puisqu'ils savent qu'ils sont dans un show télé, qui sont filmés 24 heures sur 24, et en plus, ils ne sont pas filmés uniquement par des caméras fixes, que l'on peut oublier plus facilement, mais aussi par des caméramans qui les suivent tout le temps, qui les interrogent, et donc forcément qui orientent leurs réflexions, et même leurs réponses, et même leurs réactions, puisqu'on sait qu'ils les ont un petit peu titillés, ils les ont poussés plus qu'il ne fallait à chahuter, à tricher, histoire forcément que ça rende le programme plus intéressant à regarder, puisque ça reste un programme télé.
Putain, tu veux dire qu'ils savent pas faire les lits en portefeuille, ils savent pas balancer des boulettes de papier sans être vus, ils savent pas coller des fusées au plafond sans être vus, ils savent pas lancer
ça, les boulettes de papier, il y en a eu. Mais justement, et ce qui paraît, c'est les caméramans dans certains cours qui les trouvaient trop calmes et qui ont commencé. C'est les caméramans qui ont commencé à envoyer des boulettes. Oh bah ils ont été suivis très facilement. Mais bon, ils étaient quand même vachement influencés. Et d'ailleurs, même les élèves l'ont reconnu, qu'ils ont un petit peu forcé le trait, forcément, dans leur connerie. Et ils n'en auraient peut-être pas fait autant en vrai, puisqu'en plus, là, c'était qu'un mois et que ça portait pas à conséquence.
Et peut-être certains en auraient fait peut-être plus.
Oui, non, voilà, mais t'imagines, surtout, t'es grillé avant même la rentrée. T'as un prof qui regarde le pensionnat de Chaman, pan, il te retrouve dans sa classe.
Ouais, mais justement, là,
toi, zéro.
On est au même contrôle. C'est pas grave, zéro quand même.
Ils savaient bien que ça n'avait pas grande conséquence pour eux, donc effectivement ils ont vachement exagéré dans leur connerie. Je sais bien également que même les adultes présents jouaient quand même un rôle, parce que même si c'était des vrais profs, ils étaient pas comme ça en vrai, même eux ils étaient un petit peu habillés quand même à l'ancienne, et donc ils jouaient un rôle et pas forcément de manière très naturelle, et notamment le surgé Monsieur Navarron, que moi en tout cas je trouvais pas super naturel, et pourtant dans la vraie vie il est vraiment maître d'internat d'un lycée privé dans la région de Clermont-Ferrand, il me semble. Mais n'empêche que son discours n'était pas toujours très naturel. Et que ça, les élèves, ils s'y trompent pas.
T'imagines un trop vieux élève qui arrive, tu le retrouves en surgé dans ton internat et tout.
Mais il est très apprécié apparemment parce qu'il est quand même assez sévère en vrai. Mais là, il exagérait vachement avec effectivement, parce qu'apparemment, il a un petit peu bûché, notamment en s'inspirant d'un surgé qu'il avait eu lui. Et effectivement, il avait beau crier de plus en plus fort, les élèves ne s'y trompaient pas, ils étaient morts de rire face à lui, parce que ouais, c'était pas vraiment vrai, quoi. Donc
parce qu'il risquait rien.
Et parce qu'ils risquaient pas grand-chose, effectivement, parce que évidemment, il y avait des punitions, mais évidemment, absolument pas le droit de taper hein, le coup de la règle sur les doigts, évidemment que non. Ça, c'était clair et net que c'est banni, forcément.
Ça sert à rien,
normal.
Ça sert à rien d'avoir les cheveux courts, alors.
Ah, mais c'était pour les mettre dans l'ambiance. Et
non, parce que les cheveux courts, normalement, ça sert pour éviter que le prof il t'attrape juste au-dessus de l'oreille toutes les
minutes. Non, mais pour les mettre dans l'ambiance, moi j'en croise pas mal des collégiens, des lycéens quand je prends les transports en commun. Et il y en a beaucoup qui ont déjà les cheveux courts. On a dû leur laisser pousser les cheveux même un petit peu avant qu'ils aillent dans ce truc-là, certains.
Non, parce que je les ai vus après le tournage et ils sont pas coiffés pareil du tout. On a du mal à les reconnaître. Mais donc, malgré tout ça, j'ai trouvé quelque intérêt quand même au programme sur quelques détails significatifs. Et notamment du fait que l'école et les profs de maintenant sont beaucoup accusés, alors que pour moi, ils sont quand même assez impuissants face à l'indiscipline de nos jeunes. C'est pas de leur faute si dans certaines classes c'est le bordel, parce qu'il faut pas faire une généralité non plus. C'est-à-dire que c'est la société qui a changé nos enfants, c'est les enfants qui ont changé. C'est pas tellement la discipline. C'est que maintenant, à force de leur donner la parole, hein, on sait très bien que depuis une quinzaine d'années, c'est le règne de l'enfant roi, on leur a donné beaucoup la parole, on leur a donné le droit de s'exprimer, on leur a en plus donné, notamment les médias qui sont vachement responsables, des excuses tout faites à leur connerie. Donc maintenant, ils sont incapables d'écouter, de se taire, d'obéir tout simplement, de faire tout simplement ce qu'on leur demande de faire sans râler, sans contester surtout. Il n'y avait pas moyen, même si là, dans le pensionnat Chavaille, on leur demandait le silence, ils sont incapables de se taire. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont toujours en train de répondre. On leur demande un truc, ouais mais non parce que moi en fait je peux pas parce que truc bidule, alors qu'effectivement avant dans les années 50 nos parents peuvent en témoigner, on leur demandait de faire un truc, il était pas question de répondre
même ouais, avant ça,
parce que c'était comme ça, c'est les jeunes qui ont changé.
Mais ça c'est extrêmement intéressant parce que justement il faut bien voir qu'on est quand même passé du tout au tout,
voilà.
Et que nous, tous autour de cette table là, pour l'émission, on est passé pile poil dans la bonne période,
sans doute,
de la transition. C'est-à-dire dans l'époque où on tapait plus, mais où il y avait quand même, tu veux.
Non, ça n'a pas encore. Certains profs tapaient. Hein. Moi, j'avais
moi, j'ai connu des instits qui avaient. Il en avait un, il avait une petite tige en bois, il appelait ça zézette. Il en avait plusieurs de plusieurs tailles. Et il nous tapait sur les doigts quand on faisait les comptes.
Voilà, bah
j'ai jamais eu ça. Moi j'ai juste eu la crêpe à lancer parce qu'on discute. Alors, je vous en fais une crêpe dans la tronche.
Nous on a eu tête dans le tableau, mais le prof qui nous mettait tête dans le tableau, personne ne le contestait. D'abord, il faisait des cours qu'on a trouvé relativement justes, et quand il nous engueulait, c'était relativement juste aussi. Ça serait venu à l'idée de personne d'aller contester.
Mais de toute façon, chacun a sa place. Maintenant, il n'y a pas moyen. On reproche aux profs de ne pas tenir leur classe, mais résultat, ils font la police pendant trois quarts d'heure.
Ils n'ont plus les moyens de tenir leur classe. Ils peuvent rien faire.
Maintenant, ils sont
sauf
pas soutenus.
Si les élèves ont une peur bleue du type ou de la nana parce que c'est une personne qui fait naturellement peur, c'est pas possible. Ils ont aucun moyen pour tenir leur classe, absolument aucun.
Ouais.
Non, puis pour revenir à ça, bon, d'abord rectifier un truc. Le prof qui nous mettait la tête dans le tableau, personne n'a traversé le tableau. Mais un jour, j'ai une nana qui est venue me voir, qui avait une gamine dans une poussette qui hurlait, qui faisait chier un magasin entier. La nana me dit, ah oui, mais vous comprenez, je la laisse faire parce que vous comprenez, elle a une si belle voix. N'empêche qu'en attendant, elle était en train de casser les pieds à tout le monde. Tout le monde avait les oreilles en feu et elle me disait, ben voilà, oui, mais sa sœur a intégré la maîtrise de Radio France grâce à ça. Mais attends, mais j'en ai rien à foutre que sa sœur a intégré la maîtrise de Radio France.
Je trouve qu'on
ton exemple est intéressant.
Voilà, parce que je trouve qu'on a oublié que un gamin reste un gamin et il a besoin de limites et il a besoin qu'on lui dise non. Et justement, le programme l'a montré tout à fait ça. Ils n'ont plus l'habitude qu'on leur dise non.
Pour en revenir finalement au système éducatif, le problème actuellement qui s'est complètement inversé, puisque la balance a vraiment basculé dans l'autre sens par rapport à ce que je disais tout à l'heure.
La manivelle dans la tronche.
Là. Autant nos parents, les générations suivantes jusqu'à nous et même comme disait Tonvert, nous encore. On a vécu pour certains, et surtout les générations précédentes, dans la terreur
Et c'était pas bien
pas
non
la,
plus.
Pas la terreur.
Non, il y avait pas de terreur.
Non, franchement, il y avait pas de terreur.
Moi, j'ai pas vu la terreur. C'est ceux qu'on aimait les plus en plus. Non, c'est ceux qu'on aimait le plus. C'était les.
Et ça, voilà. Non, pas forcément.
Il y a beaucoup d'élèves justement qui font des même ceux qui font des conneries qui sont super insolents. Il y a un sondage qui a montré que 58% des élèves, justement, les profs qui préféraient, c'était ceux qui savaient tenir leur classe.
Non, mais disons qu'on
sont vachement contradictoires les élèves de maintenant.
On n'avait pas de surprise. On faisait une connerie, il y avait punition,
ouais.
Et plus ou moins sévère, mais on le savait voilà. Dès le départ, c'est qu'à partir du moment où on faisait
les règles, ils testent, mais non plus ça. Les limites, même si les profs les donnent, parce qu'il faut pas charrier quand même, les profs c'est ce qu'ils essayent de faire, il faut arrêter de leur taper dessus, et justement au contraire, il faudrait un petit peu les soutenir, et notamment dans la cellule parentale, dire que ça suive partout, que ouais, le gamin, il faut lui dire non, il faut lui mettre des limites.
Tu veux dire
parce que
tu regrettes la bonne vieille période de la stéréo où quand tu t'en prenais une à l'école, tu revenais chez toi, tu te plaignais à tes parents.
Non, justement, il faut pas être aussi radical.
Tu te plaignais pas quand tu revenais chez toi.
Moi, je crois encore.
Tu faisais en sorte que personne le sache.
Voilà. C'est vrai que maintenant, enfin, avant, effectivement, le gamin revenait avec un mauvais bulletin scolaire, il avait les boules de le montrer à ses parents. Maintenant, pour certains, ils vont ramener un mauvais bulletin, me dire mais ouais, mais c'est parce que le prof est nul. Alors déjà, les élèves l'ont peut-être toujours dit, mais ce qui est terrible, c'est que les parents vont dire ouais, ils vont croire leur gamin.
Le problème maintenant, c'est quand tu tombes sur un vrai prof qui est vraiment mauvais, plus personne ne comprend d'où ça vient.
Les parents soutiennent absolument pas les professeurs.
Voilà.
Tout le contraire, faut entendre ce qui se raconte dans les sorties d'école où ils mettent ce prof-là, machin, celui d'habitude, et devant les gamins. Qu'est-ce que tu veux que les gamins, les profs aient de l'autorité vis-à-vis des gamins, et en plus, ils ont pas les moyens. C'est la société qui donne tel ou tel moyen, et pour ça aussi
on est à l'autre bout finalement de ce qui existait avant, parce que moi mon père et ses frères et sœurs m'ont raconté des histoires pas possibles où ils se faisaient, mais avec une injustice pas possible, et je pense qu'ils étaient de bonne foi quand ils me racontaient ça, ils se faisaient engueuler, foutre des baffes par les profs. Ils arrivent à la maison, ils disent oui, j'ai pas eu de bol, j'y étais pour rien, et pourtant, une deuxième.
Bah oui. Alors oui, c'est vrai que c'est extrême aussi, mais maintenant on est extrême dans l'autre sens, et moi je reste optimiste, je suis persuadée que le juste milieu peut
exister. Parce que ça revient, si tu veux, c'est un système de balancier, donc on va tendre tout doucement vers un juste
milieu. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut sacrifier des générations entières pour le principe du balancier.
Ce débat-là...
D'accord, mais bon, quand tu vois ce qui se passe, si tu veux, il y a un moment, t'es obligé de te résigner.
Oui, mais justement, moi, ce débat-là, ça fait une dizaine d'années que je l'ai, justement, avec des gens de mon âge. Et ce qui m'étonne toujours, c'est que ça fait 10 ans qu'on dit, oui, mais ça va changer, on va avoir le retour dans l'autre sens, parce que, par exemple, des gens comme de notre génération, ils n'avons pas encore d'enfants. On se dit, on fera pas la même chose avec nos enfants. Mais ça fait 10 ans que j'attends ça et je ne comprends pas pourquoi, en plus, vous voyez, autour de cette table,
qu'on
est d'accord.
Membres, on leur montre.
On est d'accord. Alors comment ça se fait que ça merde autant? Puisque justement, on est tous d'accord quand on le dit, qu'effectivement, il faudrait peut-être un peu plus soutenir l'école, les profs, et justement avoir un discours autre avec nos enfants, ne pas parler devant eux quand on une discussion d'adulte ne doit pas se faire en présence des enfants.
Je pense que c'est pas aussi simple que se dire qu'on est tous d'accord autour d'une table.
À chaque fois que j'ai eu cette conversation-là, c'est vrai que forcément, j'ai toujours dans mon entourage, effectivement,
des gens qui sont comme toi.
Bah voilà, forcément. Mais bon, quand même. Et c'est vrai que moi j'entends même si j'ai pas d'enfants, j'entends des parents parler, notamment il y a pas longtemps une collègue qui a eu la réunion des parents où justement l'instit présente un peu ce qu'elle va faire. Je savais pas que ça existait, moi j'ai jamais eu ça. Je sais pas, moi j'étais dans un petit bled aussi. Donc l'instit qui présente ce qu'elle va faire, certaines sorties, machin et tout aux parents, et donc la collègue me racontait, c'était hallucinant. Les parents interviennent sur tout, sur le programme, sur les sorties. Ouais, mais c'est pas bien, c'est pas intéressant. Les gamins vont pas avoir le droit. Ouais, mais moi le
Alors
mien,
qu'à la base,
il aime pas les maths, donc il faudrait pas lui faire ça. Oui, mais il a trop de devoirs parce que
à la base,
ça me prend trop de temps.
Ça,
c'est
pour,
hallucinant.
Pour informer les parents, pour leur dire, pour leur donner.
Et heureusement, apparemment, que cet instit-là, à ces vieilles générations, tenait tête. Mais effectivement, un jeune instit, un jeune prof, qui en plus, parce qu'on sait comment ça marche,
les balancer dans le 9-3 dans des ZEP, c'est-à-dire zones d'éducation prioritaire, donc avec des cas difficiles, mais il peut pas, il s'en prend plein la tronche.
Oui, mais si attention, tu parles déjà de parents comme 9-3, ça, comment est-ce que tu veux que les gamins s'en sortent
ici? Ah mais il n'y a pas partout. Moi, je viens d'un collège ZEP au bout du Finistère. C'est pas forcément que les banlieues non plus. Les zones d'éducation prioritaire, c'est pas forcément
besoin d'être en ZEP et trucs comme ça. Si tu veux, moi, je vais te rendre un exemple que je ne citerai pas. C'est des gens que je connais. Tu veux, quand il se trouvait que j'avais 15 ans, quand le type qui est un ami maintenant en avait une vingtaine. Pas longtemps après, il a fait un môme. Et si tu veux, moi, je me souviens d'un truc. C'est quand j'avais 14-15 ans, il trouvait que j'étais la gamine la plus mal élevée de la planète. Vraiment la plus mal élevée de la planète. Et pourtant, tu dis que j'étais élevée à la baguette.
C'est pas très
écoute,
bien élevé quand même.
Maintenant, c'est ce père de gamin qui a connu la gamine la plus élevée de la mal élevée de la planète. Son gamin se balade à 11 ans, engueule sa mère, envoie chier sa mère et prend le scooter et se balade dans toute la cambrousse avec le scooter. Qu'est-ce que tu veux dire en ce cas-là?
Bah, c'est vrai que ça devient hallucinant.
Alors qu'il paraît que moi, si tu veux, j'étais mal élevée, je répondais, etc.
Je te dis, ce que tu peux dire, c'est que dans la cambrousse,
il
prendra peut-être moins de mauvaises habitudes que.
Si tu veux, ce qui est rassurant, c'est qu'en pensant, habitant dans la cambrousse, ce gamin prend de très mauvaises habitudes. S'il habitait en ville, ça serait le premier.
Parce que
on a peut-être rencontré l'ennemi public numéro un, quoi. Enfin, si
souvent
tu vois,
à la campagne.
Le tour que ça prend, c'est effrayant.
Oui, enfin, le gamin à mon dos.
Mais oui, mais non, mais tu verrais les parents. Mais oui, c'est normal. Moi, j'ai vu les parents, quoi, si tu veux. Mais ce qui est plus tuant, c'est d'entendre ce type dire, qui disait à ma mère quand j'avais 14 ans, mais ce qu'il lui faudrait, c'est une bonne paire de baffes. Il n'aurait jamais collé une à son fils. Je peux te dire,
c'est vrai que
quelquefois,
un bon coup de pied au cul, ça manque, hein.
Et moi, je te l'ai dit.
Et
il en mérite.
Et il en mérite. Il a les attentes depuis l'âge de 2 ans, ces baffes.
C'est très facile.
Non, mais c'est vrai que c'est pas forcément la
solution. C'est très facile d'en parler.
Non,
aucun d'entre nous n'a
d'enfant. Ah, mais c'est sûr, il n'y a pas de mode d'emploi pour les enfants. C'est sûr.
J'aimerais bien nous voir à l'œuvre, ça pourrait être
rigolo. Voilà,
écoute, on a commencé avec les chiens à leur apprendre le bac à crottes et les machins et trucs. Ouais. C'est vrai que ça
non,
fait mal au cœur de temps en temps d'engueuler ta bestiole, mais il faut l'engueuler.
Ça l'a vexé quand même, hein. Enfin, est toujours parmi.
Voilà, elle est traumatisée.
Et elle est toujours aussi mal élevée en plus. Hein,
moi, très, très mal élevée.
Bah oui, elle est pas très grande. Hein.
Bah non.
Donc on peut passer, puisqu'on est visiblement tous d'accord, effectivement, on peut se donner rendez-vous quand on aura des enfants, voir si on arrive à faire mieux.
Ce qu'on va faire de bien.
On peut faire un peu vieux réac.
Ils auront tous
hein.
La réaction.
On peut passer à la deuxième.
C'est un peu ça que je voulais dire.
Mais tant pis.
On peut passer à la deuxième chose que ça a montré.
Deuxième partie de ton.
On a vu l'autorité. Maintenant, c'est au sujet du niveau scolaire. Alors attention, justement.
Là, le niveau a baissé.
Mais justement, moi je ne dis pas.
Très mauvais, très mauvais.
Il a changé.
Voilà, moi je ne dis pas que l'ensemble du niveau scolaire des deux élèves d'aujourd'hui est nul. Au contraire, ils apprennent sans doute beaucoup plus de choses, de façon variée. Et axé différemment. Et on axe maintenant beaucoup plus sur la réflexion et justement sur l'émancipation de l'enfant.
Oui, non, on leur apprend pas de choses, on leur apprend à réfléchir, tout ça, ce qui est très bien. Mais
voilà, c'est très bien. Mais n'empêche que justement,
ils ont pas les outils pour s'en servir.
Et qu'ils ont perdu tout simplement certaines bases.
Plus que
et là,
oui, non, parce que c'est vrai que là, si tu veux, quand tu dis les outils, enfin réfléchir
c'est pas les
sans
outils
les outils.
Leur manque.
Non, qu'est-ce qu'elle est mal élevée, celle-là.
Non, mais c'est vrai. C'est un peu comme si tu revenais quelqu'un de visser sans tournevis, quoi. Non, je suis d'accord.
Bah justement, c'est la réflexion qu'on se fait souvent. Ils ont certainement perdu quelques bases, et dans le programme, on le voyait quand même bien, notamment sur l'orthographe, forcément. Ça, tout le monde le dit.
Mais pas que sur l'orthographe.
Il y a plusieurs points.
Est-ce que tu as déjà lu des SMS de Jones?
Oui, justement.
Excuse-moi, il n'y a pas que les SMS de Jones.
Mais non,
oui, mais les SMS.
Parce que les pubs de SMS, franchement,
ah oui,
c'est
mais
un
le... Oui, mais la pub de SMS est réfléchie par
les jeunes, ils font comme dans
mais
les
de
pubs.
Toute mais de toute façon, on n'a pas attendu. Les jeunes n'ont pas attendu.
C'est pas les jeunes qui ont inventé le langage.
Pas que les jeunes. Ils n'ont pas attendu d'avoir les SMS pour ne plus savoir écrire. Faut pas charrier non plus.
Mais
de toute
déjà,
façon,
hein,
mais le SMS
quand même
de
déjà
jeunes,
largement limité
choses,
par rapport à nos parents et par rapport
voilà.
À nos grands-parents.
Et là, dans le programme,
on n'avait pas envie de faire d'efforts.
C'est très exact.
Là, dans le programme, on voyait bien que les bons élèves, parce qu'il y en avait. Au dicté, ils avaient 10 sur 10. Mais alors, les autres, et c'était quand même la grande majorité, faisaient, il me semble, des fautes énormes. Et pourtant, moi, j'étais pas super douée en orthographe pure.
Ah non, mais moi,
ils faisaient des fautes balèzes, de bonne heure. Allez, il s'est levé de bonne heure. Voilà, le bonheur. Mmh. Des trucs comme ça. Et même en grammaire et en conjugaison.
C'est peut-être vrai.
Il s'est
peut-être levé parce qu'il était content.
En grammaire et en conjugaison, là, c'était encore plus flagrant. Ils savent plus grand-chose. Par exemple, il sort que l'adjectif qualificatif est attribut du verbe. Depuis quand un adjectif qualificatif est attribut d'un verbe? Moi, ça me paraît énorme pour un troisième. Et alors là, les conjugaisons, là, ils c'était même plus la peine. Ils savaient plus. On leur demande un temps, ils te foutent un auxiliaire. On se demande un futur, ils font un passé, ils savent plus.
Mais tu m'affoles.
Ils pataugent, ils pataugent.
Ils ont donné combien de certificats d'études à la fin du truc?
Je te le dirai plus tard. Non, et là, ils pataugent dans la semoule, là. C'est parce que ils ont pris l'habitude de s'exprimer comme ils veulent. Et puis, de toute façon, j'en ai rien à foutre parce que si je veux parler bien, je peux. Mais on l'entend souvent, ça.
D'abord,
mais non,
ils ne sont plus capables de
s'exprimer. Si je veux arrêter de fumer, mais je peux.
C'est pareil. Alors bon, ça, le français, c'est une chose. Ils avaient aussi du calcul mental.
Si tu écoutais l'émission Quoique dédiée à ce sujet.
Non, mais je sais, à l'époque d'ailleurs, j'avais arrêté de fumer.
Ouais. Et on te félicitait, c'est malin. Donc l'orthographe, le français, c'est une chose. Ils avaient donc aussi du calcul mental, qui, je trouve que c'est un excellent exercice, pas assez fait justement à l'école. Bon, là, c'est vrai que c'était un peu hard, hein, parce que 16,80 plus 136,12, putain, c'est...
Mais c'est plus.
Hein, c'est... Ouais, mais quand même, c'est hein.
Mais parce bon, que diviser, le problème... c'est vachement plus balèze.
Ouais. Mais il y avait des trucs un peu, en division forcément plus simple, mais il y en avait plein. Et c'est, donc avec l'ardoise, le prof, il tape, tout le monde lève. Mais il y en a plein. Ce que je leur reprochais, c'était même pas de tomber à côté, c'était de même pas vouloir essayer de le faire, parce que forcément leur grande réponse, ouais, mais de toute façon ça sert à rien, maintenant il y a des calculatrices quoi. Et donc ça révèle bien le fait que ils n'ont pas compris que quand on leur demande des choses à l'école, quand on apprend des choses à l'école, ce n'est pas que pour savoir compter son argent de poche ou pour écrire un SMS ou pour savoir être boulanger. C'est parce que ça, le cerveau, c'est comme un muscle, ça se travaille. Je veux dire que Il y a des tas de trucs qui nous paraissent pas intéressants, qui nous paraissent chiants, qui nous paraissent ne servir à rien. Mais n'empêche qu'il faut apprendre au cerveau à avoir des mécanismes.
Je suis d'accord avec toi.
C'est vrai que
faut pas tout mélanger.
Les limites, les fonctions, pour quelqu'un qui va faire un bac C, qui veut, je sais pas, moi, même s'il fait un bac littéraire, il va en faire. Ouais, effectivement, ça va lui servir à rien. Mais n'empêche que ça permet de développer un petit peu son cerveau, d'être un peu moins crétin, quoi. C'est comme un muscle, le cerveau, ça.
Puis c'est de la culture générale aussi, quelque part, pour des jeunes qui savent, qui nous disent qu'ils savent tout sur tout.
Alors justement,
et qui sont incapables de faire une addition.
Je ne suis pas d'accord aux jeunes, mais je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Savoir s'exprimer correctement, c'est important, parce que
mais non, mais
façon,
savoir compter, c'est
besoin.
Vachement important aussi. Quoi,
mais
si
tout
tu
est important.
Moi, je vois,
même si ce n'est pas concret, tout est important.
Au passage de l'euro, si tu veux, moi qui ai eu la malchance et qui ai eu quand même en même temps la chance d'être derrière une caisse, je me suis rendu compte, attends, t'imagines le choc quand j'ai vu des gens de 20 ans arriver et me passer leur porte-monnaie en me disant, je suis perdu. J'ai envie de leur dire, mais attendez, vous avez 20 ans, c'est le premier changement de monnaie que vous connaissez, vous en aurez peut-être un autre. Et sur ce, j'ai vu une gamine de 14-15 ans qui trouvait ça super, super drôle, super classe de faire ça, et qui arrivait qui m'a dit, oh, l'euro, je comprends rien. Attends, toi, t'as 14-15 ans, alors si tu veux, moi j'ai connu le franc avant toi.
Bah, tu peux aussi lui dire ta gueule pétasse.
Oui, mais c'était vraiment ça, mais elle disait ça à sa copine. Mais bon, quoi, si tu veux, c'est à fond de des gens.
Tu donnes 15 euros et je te rends pas la monnaie.
Enfin, non, je garde la monnaie.
Mais tout c'est bien fait pour ta gueule.
Mais c'était pas ça qui était prévu.
Et bah, tant pis pour toi, t'es pas capable.
D'un autre côté, quand elle disait qu'elle comprenait rien à l'euro, elle avait pas tort parce qu'il y a rien à comprendre. Juste à faire des additions, des multiplications.
Le plus déstabilisant, c'était que.
Un cerveau entraîné, même pas forcément qu'à compter.
Mais
disons qu'il aura moins de difficultés à s'adapter dans la vie.
Oui,
et qu'effectivement, maintenant, les gens, ils lisent plus. Et,
ça
comment
pas.
On retire ça marche pas. Ils sont prêts à casser le truc.
La machine que j'ai achetée marche pas. Alors toi, tu prends la notice. Alors tu lis la notice.
Bah voilà.
Et tu dis, ça marche comme ça.
Pire que pas lu. Ben non, ça marche pas. Ce qui est terrible, c'est qu'il a été fait des études. Et en fait, les gens peuvent lire. Ils prennent un cahier, ils prennent un bouquin et tout. Ils peuvent le lire, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent.
Voilà, ils ne comprennent pas. Et c'est bien là qu'il est le problème. C'est qu'effectivement,
Mais donc, il y a des soucis.
Ah oui.
Il y a des grands soucis de ce côté-là. Ouais. Il faudrait déjà apprendre à compter, lire, écrire.
Et ben, ce n'est pas qu'une question, parce que j'ai vérifié. J'ai regardé les programmes qui sont donnés. Ils sont les mêmes. Seulement, on insiste moins sur l'effort.
Il y a des trucs en orthographe.
C'est les méthodes qui ne sont plus les mêmes.
En orthographe, on leur apprend.
À deviner.
On leur apprend des trucs avec le. Ça, je sais plus quel nom ça a, mais en fait, on leur apprend des sons en entier à retrouver des sons.
C'est-à-dire qu'il y a des choses,
ils arrivent plus à lire parce que en fait, ils se retrouvent avec une suite de lettres qu'ils ont jamais vues. Et ils sont incapables de les lire.
C'est ça, justement, effectivement, un problème de méthode, parce que les méthodes, elles sont délivrées par l'éducation nationale, par des vieux croutons qui n'ont jamais mis les pieds dans une classe.
Par des philosophes.
Bordel de merde, faites confiance aux profs.
Je n'ai rien contre les philosophes.
Ton truc, David, s'appelait la méthode.
D'avance à monsieur Luc Ferry.
Qui a participé
à tous ces programmes à la con et qui s'est retrouvé un jour. Ministre, je crois, de l'éducation nationale, un truc
comme ça, il semblerait.
J'ai un peu l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un ministre de l'éducation nationale qui est nommé, il se sent absolument obligé de faire une grande réforme.
Mais justement, le problème, c'est que ce n'est pas une grande réforme, parce que l'éducation nationale doit être réformée. Mais dans le fond,
il nous présente ça comme une grande réforme. Finalement, c'est une toute petite réforme.
Et c'est hyper démago ce qu'ils font à chaque fois, effectivement.
Et puis, c'est des changements, des changements de programme, des changements de méthode, des méthodes modernes. Moi, ma mère était institutrice. Il y a quelques années déjà, et elle est vieille école, donc elle était en CE2, et à un moment on lui a expliqué, maintenant faut faire de la communication, faut leur apprendre à communiquer, et elle leur a dit, oui, mais je leur apprends à communiquer, moi je leur apprends à écrire, à compter, c'est bien pour communiquer.
Et donc, justement, faisons confiance à ces profs-là. Parce que, effectivement, mon père est prof aussi, les méthodes, ils en reçoivent toutes les semaines.
Quand t'es à 2 ans de la retraite, que t'as un inspecteur qui vient de dire ça, tu lui dis, oui, t'es gentil. Bah ouais. Tu dégages.
Donc justement, qu'est-ce qu'il faut
quand
réformer?
Quand tu débutes, tu lui dis oui monsieur ou oui madame.
Bah voilà. Et donc ce qu'il faut réformer.
Oui mademoiselle, enfin peu.
C'est pas justement des jolis discours, des magos.
Si ça fait le job, tu l'écoutes.
Private joke. Merci.
De rien. Mais tu l'écoutes.
Bah donc une fois de plus, on est tous d'accord.
Il est gros. Hein.
Donc je sais pas, on va faire une équipe, on va se mettre ministre de l'Éducation nationale.
Oui, je pense. Écrire un courrier, toi qui es très doué pour écrire des lettres.
Voilà. Et puis il va falloir que tu conclues avant de battre des records.
Ok. Bah alors,
parce que moi quand je dis qu'une chronique c'est 10 minutes. Il faut m'écouter, c'est pareil, c'est pas 30 minutes.
Alors bah justement.
Ouais, Béa, vraiment t'abuses.
Je vais conclure. On n'est pas nombreux ce soir.
Ça va être de notre faute. Hein.
Je vais conclure. Et pour conclure, je voulais juste dire que justement, je ne voudrais pas qu'on me prenne pour une vieille réac qui pense que nos jeunes de maintenant ne valent rien.
Réac.
Sont uniquement chiants et insolents. C'est pas vrai. Hein. Je suis pour un retour sur
ils
un
sont
modèle.
Un peu
d'abord,
pour rien,
de quoi tu causes, t'as pas de môme.
Je suis pas pour un retour au vieux modèle scolaire forcément, qui serait de toute façon pas adapté de nos jours. Mais je voulais juste montrer quelques petites choses que le programme le pensionnat de Chavagne a montré, hein, et ça a fait beaucoup débat à la preuve, et qui sont donc représentatives des difficultés que rencontre l'école actuellement. Et je voulais juste finir sur une petite touche positive. Sur le programme, c'est que y a des choses qui m'ont fait plaisir quand même. Hein, ils sont pas que cons et insolents les petits jeunes là. C'est qu'au bout de 3 semaines, par exemple, les bonnets d'âne, parce qu'il y avait à fin de semaine les résultats avec le tableau d'honneur et les bonnets d'âne. Et ben ceux qui étaient une fois, deux fois bonnets d'âne, la première fois ils étaient tout fiers, ils se marraient machin et tout, ils étaient pédés de rire. Et ben finalement ils étaient vachement vexés de le rester. Ils ont fait vachement d'efforts, ils se sont mis à bosser. En plus là c'est vrai que c'était idéal parce que bah, les profs étaient là, ils étaient là pour les aider, ils avaient le temps puisqu'ils habitaient là aussi, donc ils se sont occupés d'eux et ils avaient finalement tous envie de le décrocher, le certif. Le fait aussi que certains ne l'aient pas eu parce que justement ils étaient donc 24, il y en a un qui s'est fait virer, il n'était pas possible à la première semaine, donc 23, il n'y en a qu'une qui n'a pas pu le passer parce qu'elle n'avait pas la moyenne, et donc ils étaient donc 22 à le passer, il n'y en a quand même que 16 qui l'ont eu, hein. Moi je trouve que c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Surtout en plus, d'après
la
moyenne d'âge que tu as annoncée, c'était largement au-dessus du niveau du certif.
Bah ouais, mais c'est des choses. Bah,
le certificat d'études, c'était avant la 6e.
C'était
en fin de
CM2. Bon, enfin, ils ont eu qu'un mois pour récupérer le niveau.
Non, c'est 3e.
3e
le certif. C'était la fin du collège.
Ouais.
Donc même
âge.
Non, c'est
le collège pour tous, c'était à la fin du CM2, c'est-à-dire la 7e, voilà. Le certificat d'études, ça se passait à ce moment-là.
C'était à la fin du CM2, ça se passait vers
10-11 ans, le certificat d'études.
Parce que là, ils avaient 15 ans, là, c'est
et puis après, on était déjà nés quand ça s'est... Le collège pour tous, je sais pas si vous vous souvenez de ça, moi je comprenais pas quand j'ai... Ouais, mais maintenant tout le monde au collège, moi je devais être en CP, mais je veux pas aller au collège tout de suite.
C'est vrai.
Et c'était ça, le certificat d'études, c'était la fin du premier cycle. C'était la 7e.
Il parlait de cycle à l'époque, même pour ça déjà, voilà.
Donc là, ceux qui l'ont pas eu, donc
c'est le brevet des collèges en 3e.
Ça fait 6 qui l'ont pas eu, et ben finalement, ils étaient vachement vexés et ils en avaient même les larmes aux yeux. Il m'a vachement touché, le petit Damien. Il était gentil, le petit Damien. Il l'a pas eu. Et surtout, ce qui m'a vachement plu, c'est leur prise de conscience à certains sur ce qu'ils ont vécu et notamment sur le port de l'uniforme. Il y en a qui l'ont dit qu'ils avaient trouvé ça pas mal finalement, même si ça leur allait pas parce que les filles elles pouvaient pas se maquiller machin et tout, elles ressemblaient à rien dans leur sac là. Mais ils se sont rendus compte que ça pouvait, notamment une fille qui vient d'une banlieue difficile, Trappe, qui s'est rendu compte que l'uniforme ça permettait de mettre tout le monde sur le même niveau, même chance. Et justement, pas de différenciation sociale, économique et politique.
Oui, mais là, on est en train de se battre sur le voile et autres signes religieux.
Et justement,
remettre tout le monde en uniforme, ça va être encore plus difficile.
Ça sera pas possible.
On risque de se lancer dans un débat long et difficile.
Mais cette
et donc, voilà une magnifique conclusion en forme d'ouverture.
Et voilà.
Oui, vers l'extérieur.
Orienter une débat.
Donc, sauvons l'école publique qui est quand même.
Et laïque.
Et à 86. 6% des écoles primaires, ce sont des écoles publiques. Donc, aidons là, justement, pour donner une chance à tous, avec justement aucune différenciation sociale, politique, économique et religieuse.
Eh bien, bravo. Eh bien, après le petit écran, nous allons passer à la littérature, autre BD, tout ce qui se trouve sur une page,
oui,
n'est-ce pas, Numa?
Oui, tout ce qui se trouve sur des feuilles.
Des feuilles qui se ramassent
à l'appel,
plus personne suit là.
Voilà.
Tout le monde s'est endormi.
C'est la chronique de Béa, on s'est tellement investi là, si tu veux.
J'étais très concentré sur le vin que j'étais en train de servir. Et toi, t'as ramené.
C'est pour une bonne cause.
T'as ramené du Chianti Classico d'Italie. Moi, j'ai ramené du Cahors, là où j'ai passé mes vacances.
De Cahors,
de la coopérative du Cahors. Le Cahors, d'accord.
C'était après.
Petit Cahors qu'ils font dans cette coopérative qui est très fruité, j'espère que vous allez l'apprécier.
Voilà. Eh bien, on verra ça. Donc, pour vous rappeler, donc le thème c'était l'automne.
L'automne.
Donc, avant de venir, on m'a dit t'aimes l'automne. Oui, en effet, j'aime l'automne. Voilà, comme ça, c'est fait.
Qui c'est qui a demandé ça?
Toi.
Non.
Ah,
non, c'était pas moi.
Non. J'ai rêvé.
Peut-être.
J'ai transmis.
Mais on est très content de le savoir.
Oui, j'aime l'automne. Donc, aujourd'hui, tout à patraque. C'est joli, j'ai pensé à ça cet après-midi, tout à patraque, ça m'a fait marrer, je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve ça rigolo.
Ça veut dire comme ça, tout à patraque, en fait.
Ouais.
T'as une autre... Ouais. J'aime bien aussi.
Ouais, aussi.
Ni trop, ni pas assez.
Ouais, tout à patraque.
Tout en vrac, un petit peu.
Non, tout à patraque.
Ah, il y a du tout en vrac dans tout à patraque.
Tout à patraque et tout à patraque aussi, hein.
Mais c'est tout à patraque en deux mots ou tout à patraque en un seul mot?
Moi, j'ai mis
c'est pour les gens qui veulent chercher dans leur dictionnaire. S'ils cherchent à T ou à P.
Ah, pour les gens qui veulent écrire bien, on aurait pu dire. Hein.
Mais moi, j'ai
ceux qui veulent avoir leur certificat
en trois mots, tout à patraque.
Je vous parlerai donc notamment donc de Le Voleur de Temps de Tony Hillerman. Donc c'est un polar donc aux éditions Rivage Noir, suivi de deux BD Hong Kong Love Story de Mark Hendricks aux éditions La Cafetière.
C'est pour rester
à
Hong Kong.
Le frère de Jimmy. Absolument, oui. Et du deuxième tome tout attendu du Minuscule Mousquetaire et qui s'appelle La Philosophie dans la Baignoire de Johan Sfar. Voilà donc. Alors tout d'abord le Voleur de Temps donc de Tony Hillerman. Ah. C'est un polar. Donc, en témoigne l'intrigue. Donc, une anthropologue, Eleanor Friedman Bernal, arrive dans les montagnes sacrées du pays Anasazi, où elle découvre que le site funéraire pré-Navarro a été pillé. Ensuite, elle est terrifiée par ce qui sort de l'ombre. Alors, donc là, on peut préciser ce que il n'y a pas de question.
Donc les... ça se passe aux États-Unis.
Oui, les Anasazi, tout le monde s'en fout, tout le monde
c'est
sait.
C'est quoi les Anasazi?
Justement, j'osais pas poser la question.
Une tribu amérindienne.
Voilà, non, moi, je non c'est
parce
pas une
que
tribu.
J'en ai entendu parler dans tous les sens.
Non, ouais. Ce n'est pas une tribu. En fin de compte, c'est les, ce sont les premiers habitants d'Amérique du Nord. Donc c'est ceux qui sont passés par la Béringie, en fait, par le détroit de Bering. On appelle donc c'est le premier peuple qui est arrivé là-bas et qui a donné
des
ensuite,
Mongols conquérants.
Mais ouais, mais on sait pas. Pas bon, trop. D'importe. En gros, de toute façon, on n'y était pas. Voilà, donc
enfin moi non.
Ouais, moi non plus. Donc quelques jours plus tard, donc après que Eleonore donc ait trouvé ce site pillé et hop, elle disparaît, hop, donc ça c'est le premier chapitre. Et ensuite, quelques jours plus tard, le lieutenant Joe Liphorn, marqué par la disparition de sa femme quand même, actuellement en vacances de frère traite. Ouais. Très impressionnant. Découvre en examinant un rapport selon lequel l'anthropologue a dérobé de précieux objets. Donc, comme quoi elle fouillerait dans des sites sacrés sans autorisation, ça c'est pas bien, a disparu. Et dans le même temps, il y a un type qui s'appelle Jim Chi, donc c'est un flic de la police tribale Navarro, qui fait aussi homme médecine à 16 heures, mais il a exercé qu'une fois dans sa famille. Donc, bon, il...
Quelle expérience !
Ah, ben oui, mais c'est un début. Donc, lui découvre des cadavres alors qu'il était à la recherche de matériel volé. Voilà.
Mmh, donc, alors, donc, c'est bien l'intrigue.
C'est une super intrigue.
Ah ouais, j'aime bien.
Ouais, ça dépote. Donc, en fin de compte, c'est l'histoire donc de ces deux types. Donc, le jeune flic, donc Jim Chi, le vieux, Hipporn. Voilà. J'ai tourné la page, mais c'était pour du beurre. Et surtout de la culture Navarro, parce que, en fin de compte, ce qui est le plus appréciable dans ce bouquin, Tillerman, c'est tout ce qu'on apprend sur les Navarro, les Anasazi, cette culture-là.
Avec Roger Hanin.
Évidemment, il fallait que quelqu'un le fasse.
Oui, mais on est obligé aussi, non plus. On a une réputation à défendre.
Oui, donc Roger Hanin n'est pas présent.
Non, bah, tant mieux.
Oui, tant mieux. C'est pas.
Il s'occupe de ses mulets.
Grande dame de crête.
Mais par contre, il est vrai qu'on découvre beaucoup de squelettes et donc peut-être qu'il y a celui d'Yves Montand, mais je sais pas.
Mais laissez-le tranquille, ce pauvre.
Ouais, c'était.
Si on examine cette dentition, peut-être.
Bah, lui, il s'en fout. Hein.
Lui, oui. Oui, mais visiblement, ça fait sortir des bouquins. Hein.
Ah, et puis ils en vendent plein en plus. Hein.
Non, non.
Il y en a qui achètent.
Oui, pour le fils, oui, mais
ouais,
par contre.
Le fils, il a vendu, je crois, 200 000 exemplaires, oui, ce qui est un score absolument phénoménal.
Attends, c'est lamentable.
De quoi
de... Oh, j'ai oublié le titre, parce que là, je dois avouer que j'en ai rien à foutre.
Il faut...
Le petit-fils a sorti.
Benjamin Castaldi.
Benjamin Castaldi a sorti un livre sur son grand-père, Yves Montand, et qu'il a vendu à hop.
200 000 exemplaires.
200 000 exemplaires. Et il y a Catherine Allégret, là, qui vient de sortir le sien.
Oui, donc
et
la
qui
merde.
Fait un magnifique flop.
Et bah, tant mieux.
Plaisir.
Ouais, tant mieux. Parce que franchement.
Enfin, Benjamin Castaldi doit peut-être beaucoup à son grand-père, encore plus à son père.
Justement, alors le descendre comme ça.
Je pense qu'il. Doit aussi un peu à lui-même, et s'il a vendu autant d'exemplaires, c'est aussi parce que il est connu.
C'est parce que ça
c'est pas, s'appelle Benjamin Castaldi.
C'est pas comme la nana.
C'est celui qui a lancé la mode de genre de bouquin, et donc c'était le premier, donc tout le monde s'est jeté dessus.
Voilà.
Et voilà pour fermer la parenthèse.
Donc fermons la parenthèse.
Je me tais.
Donc le voleur de temps, donc c'est une histoire d'abord donc passionnante, c'est super détaillé. Alors on apprend plein de choses sur les Navarro, alors voilà, sur notamment leur inadéquation avec le monde moderne et la culture capitaliste, parce que forcément ils n'ont strictement aucune notion de comment on appelle ça, de
valeur, de système monétaire,
non, de faire mieux que son voisin. Il y a pas notion de compétition, voilà, dans leur culture. Il y a pas
ça, c'est bien,
c'est cool,
ça, compétition.
C'est cool, si je veux présenter, oui, mais, à mon boss,
oui, mais c'est super cool. Mais en attendant, ils ont pas de pognon, ils se font bouffer, donc c'est cool dans l'esprit, mais par contre c'est,
oui, mais moi, c'est
au milieu
pareil,
de, au milieu de, d'une culture capitaliste, ça fonctionne pas du tout. Mais donc c'est super intéressant, la traduction. Donc de Daniel et Pierre Boudil, donc visiblement, je pense que c'est un couple, donne beaucoup de relief. C'est très fluide, c'est une prose envoûtante, limpide, claire. Les personnages, ils sont tous super attachants, mais ça c'est lié à l'auteur. C'est super riche. Et ben, donc il faut lire, je pense, ce grand écrivain américain. Donc je rappelle son nom. Donc c'est Tony Hillerman, Le Voleur de Temps. Il en écrit plein d'autres avec les mêmes. Avec les donc Tony Shi et Ip Man qui reviennent, donc ce sont des personnages à lui qui sont aussi dans d'autres aventures, et toujours sur sur la culture Navarro, sur ce peuple là, sur les Anasazi, sur voilà, et on apprend plein de trucs, c'est génial, voilà, hop.
Donc nous le lirons.
Mais je t'ai pas vraiment écouté, ou je sais pas quoi. Tony Hillerman, il est Navarro lui-même?
Eh bien, je ne sais pas, parce que comme son nom l'indique.
Je suis désolée d'avoir posé la question.
Mais oui, non, c'est pas grave. Ça, comme ça, on peut parler dire, que je voulais chercher, mais comme j'ai eu quelques petits problèmes internet. Et non, mais j'ai pas eu le temps d'aller chercher ailleurs. J'ai pas pu me renseigner. Mais je pense qu'il.
Il fallait appeler Pivot, je sais pas.
Il
connaît très bien la culture, il a étudié la culture, ça c'est sûr et certain.
À l'Académie, je crois.
Oui, dans le jury du prix Goncourt.
À la, ouais, il est,
L'Académie Goncourt.
Il rentre à l'Académie Goncourt. Voilà. Tout à fait. Donc ben voilà, donc bouquin suivant, And Now, Ladies and Gentlemen. Donc ça c'était un petit, une petite aparté, c'est juste pour dire que moi j'aime bien les films de Claude Lelouch.
Tu crois pas si bien sûr, parce que
voilà, il faut le dire.
Jeremy Irons a joué dans un film qui se passait à Hong Kong.
Ah oui, aussi, ouais. Ouais, donc là c'est Hong Kong Love Story, donc c'est de
Il a joué dans pas mal de films français en fait, hein.
Qui
Jeremy Irons, oui.
Oui,
je prononcerai pas aussi bien
le. Ah, on digresse.
Il joue aussi dans un Die Hard, si j'ai bonne mémoire.
Ouais, ouais, il est absolument infect, ce qu'il y a de plus sensationnel.
Voilà.
Voilà, donc Hong Kong Love Story, donc ça c'est une bande dessinée, cette fois, de Mark Hendrix, qui n'a rien à voir avec,
avec Jimi.
Avec Jimi Hendrix. Donc,
et Barbara.
Donc, non plus. Donc,
voilà, ça c'est fait.
Il est
voilà.
Blanc alors.
Ah, non, donc, alors, à savoir que donc, l'un est noir. Et américain, l'autre est blanc et néerlandais. Voilà la photo.
Il est blond.
Effectivement, lui, il est néerlandais.
Oui, on voit bien que s'il y a un lien de parenté.
Effectivement, c'est une photo en noir et blanc et lui est blanc.
Ouais, plutôt, et on dirait plutôt qu'il
plutôt est néerlandais.
Plutôt blond, roux, enfin un truc.
Hollandais, quoi.
Ouais, ouais.
Peut-être même roux avec des taches de rousseur, comme dans la BD.
Non,
en
non,
fait.
Les Hollandais, non.
Non, non.
Ah, parce que dans la BD, il dessine un personnage qui est roux avec des taches de rousseur.
C'est un anglais, alors.
Ouais, non. Donc, l'histoire, alors. Donc, l'histoire de cette bande dessinée, donc, c'est une actrice japonaise qui s'appelle Tomohiro. Là, je suis pas sûr pour l'accent.
Si, si, c'est ça. Moi, je suis hyper balèze en japonais.
Et qui est venue à Hong Kong, parce que je me suis concerté avec Flo par rapport au film. Donc, elle est venue à Hong Kong pour tourner dans une série B. Et elle tombe amoureuse. Et comme chacun sait, lorsqu'on tombe, ça fait mal.
Ça, t'as lu dans le bouquin.
Hein, bah oui, j'ai lu.
Surtout quand on tombe de haut.
4, hein.
Oh là là, Numa, ça fait 10 minutes, ta chronique est finie.
Oh merde.
Tu te plaindras, tu t'iras voir Béa.
Oui, ouais. Donc, mais par contre, ce n'est pas une histoire à l'eau de rose. Donc, voilà. Donc, il nous raconte, lui, donc, les problèmes existentiels de cette actrice anciennement de porno. Donc, il y a des relations humaines formidables. C'est pas facile à vivre, tout ça. Mais en même temps, il s'en sort bien et ça peut être drôle. Donc, Hendrix mêle donc, la réalité, le cinéma, le surnaturel, plein de fantasmes, tout cela avec humour. Il se moque aussi des différences culturelles. Et le dessin est noir et blanc. Là, j'ai marqué voir Flo, mais on verra pas parce qu'on n'a pas le temps. Donc, le dessin est noir et blanc.
Il est noir et blanc. Il est assez. En fait, il est très
épuré.
Très épuré. Ouais. C'est très direct. Et en plus, ça fait partie de cette nouvelle génération de BD qui a pas peur de montrer certains trucs. Moi, je me suis retrouvée sur une page où la nana est avec une autre nana et j'étais au téléphone avec ma mère. Elle me téléphone à ce moment-là. J'étais en train de lire ce passage-là et bon, c'est pas que ça soit purement absolument érotique, mais sur le coup, j'étais un peu sèche dans le bec.
C'est effectivement pas très érotique.
Rajouter aux commentaires, c'est pas évident.
Non, c'est pas du tout pornographique. On montre les choses comme elles se passent.
Si tu le lis, ça coule de sens, si tu veux. Mais c'est vrai que quand t'es au téléphone avec quelqu'un...
Les jambes en l'air, comme ça...
C'est pas facile de parler.
Attends, elle est en train de lui faire une gâterie, là.
Oui, elle lui fait une gâterie.
Oui, en effet.
Justement, mais si tu veux, ça n'a rien.
Calme-toi, Cré.
Ça n'a rien.
Toi, respire tranquillement, c'est l'automne, t'es pas bien.
Bon, non, mais c'est
ça n'a rien de porno.
Non, mais ça n'a rien de porno, c'est une bande dessinée où, quand il y a une relation entre un homme et une femme,
c'est quelque chose de normal.
Quand il y a une
fait.
Relation entre une femme et une femme, eh bien, il la montre, c'est très, très pudiquement, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a rien de dégueulasse là-dedans.
Mais
ça, c'est rigolo.
C'est rigolo,
mais ce n'est pas
ça. Ça prend un côté.
Ce n'est pas ça, c'est normal. Ça t'arrive jamais, Craig.
C'est plus du quotidien que de la pornographie.
Voilà, mais il y a juste qu'au moment.
Le
problème de cette BD là, c'est que tu peux pas la lire en ayant quelqu'un au téléphone parce qu'au bout d'un moment il y a un blanc quoi. Si tu veux,
enfin, d'un autre côté, toi peut-être que tu lis quand tu parles avec quelqu'un au téléphone, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Moi j'ai du mal, j'ai du mal.
Moi
personnellement,
oui.
J'ai du mal. Donc, pour conclure sur cette bande dessinée, c'est une très bonne BD, c'est à lire. C'est la troisième en France d'Hendrix qui est publiée, sachant qu'il en a fait une trentaine.
Et en fait, on en a lu qu'une, nous.
Oui, il y en a deux autres.
Tu vas la laisser là, puis je te la ramènerai.
Là, mais je pense que ça devrait pas tarder à arriver de par chez nous, encore plus de lui. Voilà. Alors donc maintenant, on va rigoler un petit peu avec le minuscule mousquetaire de Johan Farr. Donc, comme d'habitude.
Il est bienvenu sur Quoique, parce que ça ferait vraiment plaisir de discuter avec lui si un jour il tombait sur nos émissions.
Et oui, si un jour. Donc, pour cibler donc Johan Farr, c'est le même qui a fait Le Chat du Rabbin. La série des donjons, donc il en a dessiné, il participe en tant que scénariste. Le professeur Bell, c'est lui. Le Candide de Voltaire et le banquet de Platon, donc qu'il a mis en image, c'est lui.
L'histoire de la momie.
J'ai oublié, mais c'est lui. Oui. Voilà, oui, j'en aurais besoin. Donc, grand vampire, petit vampire et plein d'autres choses, c'est encore lui. Il arrête pas, il publie. On sait pas comment il fait.
Le voleur des
prolifique.
Tu parles de beaucoup de choses que finalement je ne connais pas.
Eh bien, il faudra apprendre.
Bah, y a pas que Tintin. Hein.
Voilà, et donc.
Nous ne parlerons pas de Tintin ce soir.
Non,
merci.
Il
n'y
a pas que Tintin, mais je pense qu'il n'y a pas que Craig qui n'est pas au courant non plus de tout ce qu'il raconte.
C'est pour ça qu'il le dit.
Ben oui, c'est pour ça. J'en avais déjà parlé.
Platon, t'en avais parlé.
Voilà.
Il faut suivre les émissions quoi.
Ah oui, mais le banquet de Platon, pour moi, c'est un bouquin. C'est le banquet.
Mais si tu avais suivi
le mec qui a mis en scène le banquet de Platon.
Il y avait des dessins.
Si tu avais suivi, j'en ai parlé de ce bouquin-là précisément.
Oui, mais il n'était pas là à cette émission-là. Et il ne l'a pas écouté.
Et ben voilà, mais c'est pas bien.
It's a shame.
T'es pris en flagrant délit.
Shame.
Bon, vas-y.
Excusez-moi.
La fille du professeur, voilà.
Voilà. Donc c'était la fille du professeur que elle est bien.
Qui a eu le prix René Goscinny avant l'année 2000, un truc très joli, tout en aquarelle.
Donc voilà, c'est donc tout récemment, donc le deuxième tome du minuscule mousquetaire est sorti. Ça s'appelle La philosophie dans la baignoire. On parlait de philosophie tout à l'heure, voilà. Cool. Donc c'est pour moi c'est irracontable, et c'est irrésistiblement drôle. Voilà.
Et plus ça va, plus c'est grivois, et plus c'est drôle en étant grivois.
Donc déjà on va donner quelques exemples, pas beaucoup parce qu'on va pas tout raconter. Donc on y rencontre le Sphinx, donc qui est très mélancolique, hein, parce que le Sphinx s'interroge sur son spleen. Donc, il faut savoir que c'est super déprimant d'être sphinx de nos jours, voilà, parce que de poser toujours la même énigme dont tous les enfants connaissent la réponse, ça devient super lassant. Vous connaissez l'énigme, hein, donc
sur quatre pattes.
Voilà, toujours la même, tout le monde la connaît, c'est super chiant.
C'est nul, je peux même plus bouffer personne.
Voilà, c'est
bon,
ça.
Le laisser rappeler l'énigme, histoire donc, que j'apprenne quelque chose.
Oui, puis pour nos auditeurs, parce que nous, on la connaît.
Vas-y, rappelle.
Que tu vas pas la c'est, puis ça me la rappellera, moi
il
aussi.
Il faut pas que je... Ah mince, c'est malin, il faut que je tourne les pages, parce que sinon...
Parce que
je
t'en rappelle pas. Vachement bien.
Tu nais à 4 pattes le matin, vite sur 2 pattes
pour pas la rater.
À midi et à 3 pattes le soir.
Ah voilà. Bah c'est l'homme parce voilà. Qu'il est à 4 pattes.
Le bébé, la vieux avec sa canne.
Le vieux avec sa canne.
Voilà, mais je voulais bien la raconter.
Bah raconte-la bien.
Mais non, maintenant c'est fait.
Non, ça y est, on a compris.
Voilà, okay. donc ce pauvre Désolé. Sphinx, il dit tout simplement, donc, non seulement je dévore jamais personne, mais en plus c'est humiliant, je passe pour un imbécile à la longue. Puis vous n'en connaissez pas d'autres? Non. Voilà, le pauvre sphinx, il a pas d'imagination.
Bah ouais. Donc, j'aime la suite.
Un sphinx, il a quand même deux belles paires de miches.
J'aime quand même la suite parce qu'ils essaient de rendre service au sphinx en lui montrant un tour de passe-passe, une astuce. Et alors, on lui montre le coup de la pièce qu'on fait tomber au fond d'un verre avec une feuille de papier à cigarette, machin, etc. Et il essaie, et plaf, ça rate, et il explose tout. Et elle regarde, et puis qu'est-ce que je vais faire avec mes grosses pattes?
Le sphinx a des grosses pattes de lion et c'est très emmerdant pour faire
oui, donc on regardera la BD.
Ah
hein,
oui, non, mais c'est sûr, ouais.
Ça je pense qu'on comprendra mieux.
Ah, je pense aussi.
Oui, mais
voilà, alors donc,
le
minuscule mousquetaire, il lui arrive plein d'aventures, c'est extraordinaire. Donc dans tous les sens, il copule dans tous les sens aussi quand même. Et même pour rendre service, surtout un pauvre mari, alors là c'est super drôle, dont la femme ne baise que lorsqu'il lui parle de poésie, de philosophie, sinon elle arrête et lui il connaît rien à la philo, le pauvre mari, donc il est bien embêté.
Sur ce,
qu'est-ce qu'il fait? Lui, il lui débite. Excusez-moi, c'est fait.
Oui, non, mais.
Le mari lui débite les deux ou trois choses qu'il a apprises à l'école sur la poésie, puis après, il sèche, et quand il sèche, elle le plante là.
Et alors?
Il faut que je dise la suite. Hein.
Vas-y, lis.
Bah, comme je vous le dis, elle se montre intraitable, pas de philo, pas de baise. Et si je répète deux fois la même chose, même sanction. Vous voulez dire qu'elle reste attentive pendant toute la durée de l'acte? Absolument. Et c'est pour cela que je passe mes journées à potasser ces ouvrages qui ne servaient à rien avant que mon épouse en fasse le pivot de notre bonheur conjugal. Ouais. Ça vous fait marrer? Oh non. Si mes ennuis vous font marrer, mais pas du tout. Hein. Tenez, je vais même vous sortir de là. Êtes-vous cocu? Je l'ignore. Donc disons oui. Alors, un de plus, un de moins. Où voulez-vous en venir? Présentez-moi votre épouse, monsieur, et je me fais fort de la dégoûter du débat philosophique. Vous sauriez faire ça? Assurément, moi-même, j'en ai des nausées. Attendez, vous êtes sûr que vous proposez pas ça parce que je vous excite? Parce que ça vous excite, excusez-moi. vous m'avez bien l'air du genre de salopard qui préfère causer pendant que des... Ouais, mais je suis trop loin.
Voilà. Pendant des heures, oui,
c'est ça. Je vais reprendre au début parce que sinon on prend en compte.
Bon, on laisse causer.
Vous m'avez bien l'air du genre de salopard qui préfère causer pendant des heures que tirer son coup. Hein. Donc vous pouvez courir pour que je vous présente ma femme. Je la trouverai sans vous. Et donc après, bon, il va la trouver, puis il va arranger le coup, enfin le sien.
Non, puis même, c'est pour pousser jusqu'à.
C'est des choses qui arrivent.
Ce sont des choses qui arrivent.
On le sentait venir.
L'humour du dessinateur de la BD, il a écrit un truc qui s'appelle Ukulélé, qui est une espèce de journal intime qu'on lui avait commandé, où il raconte son été où il fait rien du tout. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il se dessine dans Ukulélé exactement comme il a dessiné le futur mari cocu là dans la BD, quoi. La perruque près, c'est sa tête dans la BD Ukulélé.
Ouais, tout à fait. Ouais, mais bon, ça c'est après.
Mais non,
c'est
un type qui est bourré d'humour, qui a beaucoup d'humour, qui est capable de revenir sur plein de choses, et ça fait vraiment plaisir.
Bon allez, juste une dernière, donc là je reprends, là de toute façon on est au tout début de la BD. Là c'est à propos de la philosophie, donc il y a le minuscule mousquetaire, donc il est quand même un petit peu empâté. Là il est à poil sous l'eau, avec plein de... on va dire, donc il y a un cheval avec une grosse... on sait pas quoi, il y a des tritons, un hippopotame, donc tout ça ils vivent sous l'eau, donc là il parle de philosophie. Et parce qu'ils se réunissent le soir pour parler philosophie, et donc le minuscule mousquetaire arrive et dit vous vous réunissez ici pour vous branler dans le bain? Quasiment. Ouais, bah, on fait de la philosophie. Et le débat philosophique relève souvent de la branlette, hein, de la branlette au sens propre du terme. Ça va sans dire.
Bravo.
Et là, c'est pareil.
Bravo.
On veut de rien, c'est pas moi qui l'ai écrit.
Là, c'est pareil. Non, non, il peut en dire long parce qu'il a fait des études de philo.
Soir,
il a une
maîtrise
de philosophie, donc quelque part.
D'où donc c'est pour ça qu'il.
C'est pour ça qu'il en parle, et qui s'est permis.
Le minuscule mousquetaire.
Oui, le minuscule mousquetaire.
Et donc et c'est pour
en
ça
fait, il s'est rendu compte qu'il avait perdu son temps pendant toutes ses années de jeunesse à étudier la philosophie.
Non, parce qu'il a fait des illustrations. Maintenant, il s'en sert. Trucs comme ça, il a fait des illustrations de bouquins de philo.
C'est ce que je
voulais.
C'est ce que je disais tout à l'heure. On en parlait. Donc voilà. Donc voilà. Donc Johann Svar, le minuscule mousquetaire. C'est le tome 2
que je lirai avec plaisir.
Et c'est Poisson Pilote.
Avant, si tu veux. On prêtera l'intégrale Svar là, qu'on a à la
Hop,
maison.
Voilà.
Donc, j'ai maintenant le poème.
Le poème.
Le Alors, bah, comment, comment je fais pas tout comment t'as aujourd'hui. Marqué sur notre correspondance Tu as marqué le poème ou quelque chose comme
c'est
ça.
C'est le poème Anuma.
Le poème Anuma.
Le poème.
Donc, tu me fais signe quand.
Je m'en fous, c'est toi qui commence.
Oui, non, mais je sais, c'est moi qui commence, mais tu me fais signe quand je dois reprendre.
C'est pas compliqué.
Parce que t'as mis V1 partout.
Oula, c'est
et même chez toi, non, t'as mis toi, t'as
un duo. Moi, c'est V2, toi, c'est
V1. Il y a de l'interaction.
Moi, c'est V1.
Interaction.
Donc, tu me fais signe quand même quand t'as fini ton truc.
Non, tu vas le sentir, tu vas lentement.
Tu vas le sentir, il a peut-être pas envie.
Donc, c'est sur.
Je préfère que tu le dises, hein.
S'il vous plaît.
Donc, c'est sur, on va dire, Numa Prévert, en fait.
Ouais, c'est ce qu'il y a noté.
Ouais, j'ai noté.
C'est un pot pourri
de
poésie.
Ouais, c'est tout pourri, ouais.
Pas trop pot.
Donc, on y va, hein. Alors, faites le silence. Concentrez-vous.
Ouais, parce que c'est pas facile.
Bah oui, surtout pour moi, hein. C'est la première fois que je le lis, hein.
Ah bah, fallait le faire avant. Se défiler avant.
Bah oui, mais j'ai pas eu le temps.
Bah oui.
Enfin, bref. Donc, on démarre.
On vous écoute.
Automne.
Ah, tiens, il y a de l'orage.
Les feuilles mortes se ramassent à l'appel.
Ah non, les feuilles mortes, ça se ramasse au râteau.
Tu vois, je n'ai pas oublié.
Ouais, tu vois, je n'ai pas tout plié.
Les feuilles mortes se ramassent à l'appel.
Ouais, ça, tu l'as déjà dit.
Les souvenirs et les regrets aussi.
Les regrets aussi sont à l'ail, ouais.
C'est une chanson qui nous ressangle.
Oh, ça veut rien dire, hein, qui nous ressangle.
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Ouais, toi qui m'aimais, moi qui trimais, ouais.
Et nous étions tous deux ensemble.
Et nous étions en 12 ensemble, ça c'est chic.
Moi qui t'aimais, toi qui m'aimais.
Oui, moi, moitié d'aimais, mais je veux une part entière, moi.
Ta gueule!
Bravo!
C'est pas facile, hein.
Ah, n'est-ce pas? Hein.
Merci.
Ah, on sent le théâtre venir, là, quand même.
Surtout chez lui.
Ouais, hein. Tu me refais plus jamais ça, merci.
Ah, mais pas du tout, mais vous êtes très bien démarré.
C'était joli tout plein.
On a beaucoup aimé.
C'était la première fois.
On est content d'ailleurs de t'entendre parce que pendant que t'as dit le poème, tu nous as pas dit il reste 2 minutes, il te reste 10 secondes. Au moins, tu l'as laissé dire son poème.
Non, mais faut quand même dire, c'était quand même une œuvre dite par Murray. Et Murray, on appelle les deux Murray. Hein, une troupe qui a plein d'avenir.
Oh là là, oui.
Oh là là.
Ouh là là.
Donc,
l'avenir est devant nous.
Oui, ah, et oui. Devant et derrière.
Et nous tournera le dos à chaque fois que nous ferons demi-tour. c'est Pierre Dac, hein, excusez-moi.
Et bien sûr.
C'est quand même formidable.
Sur ce, je pense que nous pouvons faire un tonnerre d'applaudissements. Et ben voilà, tata, c'est fini.
Okay.
C'était Hop. Bien, vous avez ouais. aimé vous
nous, ouais.
C'est très bien.
Les autres, on ne sait pas, mais ils ne
le,
bah,
le disent pas d'ailleurs.
Ils
on
le disent pas.
On
problème,
les incite hein. encore, tous nos multiples si auditeurs
le
à
téléchargeurs bah, de quoi
que ce soit. S'ils le disaient, au moins on pourrait faire des efforts, s'améliorer, etc. Mais puisque bah, c'est comme ça, on restera comme
temps.
Ça.
Voilà, donc nous incitons tous les auditeurs à s'exprimer donc sur le site www.quoique.org. Mais si vous nous écoutez, vous le savez déjà.
Il ne vous reste plus un
truc. Oui, d'ailleurs, on va relancer l'appel. Sylvie Testu et Johann Svar sont invités sur le plateau de Quoique quand ils veulent.
Ouais, puis plein d'autres. Hein.
Et puis plein d'autres, ceux qui veulent.
Alice Aprich, Yves Montand.
Ouais, on se lance.
Enfin, plutôt les vivants que les morts, sinon ce sera
ça
un
va
peu.
Jean
Lefebvre.
On va confondre les rillettes et ce qu'on mange et tout.
Jean-Marc.
Marlon Brando.
Robert Vier.
Bon.
Mais il est mort, Danton. Donc, bah voilà.
Bon automne à tous.
Bon automne à tous. On va se retrouver à peu près dans un mois.
On sera encore l'automne.
Vers là, ouais.
À peu près. On va remercier, comme d'habitude, monsieur Yann Beaujouan, qui a écrit, joué, interprété, et tralala et tralali, tous les jingles. Parce que c'est pas des gens à côté qui jouent en direct.
Non, ça ne sont pas les
voisins.
On aimerait bien. On aimerait bien, mais bon.
Ça serait fort sympathique. Mais ça se passe pas comme ça.
Un jour, peut-être.
Chez McDonald's, ça se passe comme ça, mais ici, on n'est pas chez McDonald's. Donc mais ça se passe pas comme ça.
Et tant mieux. Il reste du temps à dépenser ou quoi, là, pour que tu te laisses aller à des digressions dans tous les sens?
Toi, en parlant de temps à dépenser.
Tu n'auras pas plus de temps la prochaine fois. Non.
C'est pas juste!
Donc voilà, donc le prochain thème de l'émission, pour l'instant, absolument, on voulait faire sur l'école, mais ça a été tout usé, là.
Oui, hein.
Ah, c'est vrai, on voulait faire sur l'école. Bah, mince,
on aurait pu.
On aurait pu, mais bon, là...
Mais là, les pantalons sont tous usés.
Ouais, tout est usé, les culottes, voilà.
Et ben,
tout,
on trouvera autre chose.
Bah, j'imagine. Nous allons vous souhaiter le bon au revoir. Et puis, à la prochaine. Hein. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.